7h, 9h, plus près de toi.
On est arrivé tôt ce matin avec Ahmed Khelif et François Romain pour avoir des très bonnes places pour le journal de 7h de Thierry Paret. On sait que si on arrive plus tôt, on peut être au premier rang. Thierry Paret va arriver maintenant. Le conseiller général nous dit que ça doit être une question de minutes, peut-être de secondes. On est là. En attendant donc les annonces du journal de Thierry Paret, je voulais, Ahmed, en premier vous parler. Vous dire, Ahmed, ce qui m'intéresse chez vous, c'est que vous êtes à la fois profondément ancré dans le passé, mais complètement ouvert sur l'avenir.
Tourné vers l'avenir.
Tourné vers l'avenir.
Vraiment tourné. Trop tourné.
Tourné vers l'avenir, mais tout en vous inspirant des leçons du passé.
Oui, et il y en a des leçons à prendre.
Il y en a des leçons.
Parce que j'ai eu des gifles dans ma vie, j'ai eu des choses, et maintenant j'ai envie d'aller de l'avant.
Vous coup, vous voulez les rendre. Il serait temps de les rendre. Oui. Restez là, on me signale que c'est... Non, c'est pas encore Thierry Paret, je peux dire, de moi et François Rollin.
Oh là là, François... Ben moi je sais ce que vous allez me dire. Bonjour. Vous allez me dire, François, vous êtes comme un gosse, et c'est vrai, je suis comme un gosse. Me retrouver là au premier rang dans quelques secondes, je vais voir apparaître Thierry Paret, je vais entendre sa voix, je vais voir son journal, je suis un gosse. Alors, j'ai 8 ans, je bats des mains.
Vous ne vous imaginiez pas là, quand vous étiez enfant, vous n'auriez jamais pensé vous retrouver à cette place.
On n'aurait pas rêvé, je crois pas.
Alors on ne sait pas encore ce qu'il va annoncer, Thierry Paret.
Bon, après, peu importe. Hein.
Peu importe, François, en tout cas pour moi, si je peux me permettre, vous êtes quelqu'un qui s'inspire énormément de ce qui s'est passé dans le passé, dans l'histoire, et ça vous sert pour rebondir et pour mieux envisager l'avenir.
Oui, ah oui. Tous les jours, je me demande par exemple qu'est-ce que j'ai mangé hier soir, et ça me guide sur
votre digestion.
Je me dis, je vais pas manger la même chose.
C'est ça. Ouais. Merci. Attention, me signale qu'il arrive. Voilà, tous les gens qui sont là. Voilà, le grand officier de la Légion d'honneur est là. Ça sent très
attendu,
très bon.
Hein, on a attendu.
Attention, c'est parti. Le journal de 7h de Thierry Paret. Radio Nova.
Bonjour à tous. Et merci de votre accueil. Sans surprise, c'est donc Édouard Philippe, un très proche d'Alain Juppé, qui a été nommé Premier ministre. Édouard Philippe.
Le nombre de gens qui m'ont félicité par erreur. Ça m'était arrivé sous Balladur aussi. Le nombre de gens, le nombre de textos, de bouquets de fleurs, de montres qu'on m'a envoyé, de demandes de faire sauter des PV.
C'est marrant.
Je ne suis pas apparenté à Édouard Philippe.
Ouais, et c'est marrant pourtant comment derrière chaque Édouard se cache un Emmanuel Macron. Député maire LR du Havre, donc Édouard Philippe, élu de 46 ans, qui est censé incarner le chaînon manquant entre la gauche social-démocrate, le centre et la droite dans l'entreprise de recomposition engagée par Emmanuel Macron pour son premier déplacement comme Premier ministre. Édouard Philippe s'est rendu hier soir à la préfecture de police de Paris. Le gouvernement au complet sera annoncé lui ce soir, à partir de 20h, donc en fin de journée. En attendant, les réactions sont nombreuses. Alain Juppé souhaite bonne chance à son poulain, tout en rappelant qu'il soutiendra les candidats LR et UDI aux législatives et que c'est après ce scrutin qu'il conviendra au parti LR de fixer leur ligne. Le secrétaire général de LR, Bernard Accoyer, n'y voit qu'une décision individuelle et en aucun cas un accord politique. Marine Le Pen voit dans cette nomination une confirmation de l'existence de l'UMPS, entre guillemets, puisque l'UMP n'existe plus aujourd'hui. Face à un premier ministre de droite, le Parlement a besoin de la gauche, estime Benoît Hamon pour le PS. Jean-Luc Mélenchon estime que son mouvement représente désormais la seule force d'opposition dans le paysage politique. Pour Pierre Laurent, secrétaire national du PC, la présidence Macron prend sa véritable tournure, ni de gauche, ni de gauche. Le mouvement d'Emmanuel Macron a publié hier soir une liste complétée de candidats pour les élections législatives du mois de juin, parmi lesquels environ 80 centristes du Modem. L'alliance patriote et républicaine, scellée entre Debout la France et le FN avant le second tour de la présidentielle, a volé en éclats à moins d'un mois du premier tour des législatives. Le Front National a décidé d'investir un candidat dans l'Essonne face à Nicolas Dupont-Aignan. François Fillon a à nouveau convoqué le 30 mai par les juges. Après une pause lors de la présidentielle, les magistrats accélèrent leur enquête sur les soupçons d'emploi fictif dont auraient pu bénéficier l'épouse et deux des enfants de l'ancien Premier ministre. Selon est-ce que c'est un nouveau dérapage de Donald Trump? On ne sait pas, mais selon le Washington Post, le président américain aurait révélé des informations hautement classifiées au chef de la diplomatie russe et à l'ambassadeur de Russie aux États-Unis lors de leur récente rencontre la semaine dernière à la Maison Blanche dément. Les informations partagées par le président américain concerneraient, toujours selon le Washington Post, le groupe État islamique et avaient été communiquées par un partenaire des États-Unis. Le journaliste mexicain Javier Valdez, pigiste de l'AFP dans l'État de Sinaloa, c'est dans le nord-ouest du pays, a été assassiné hier dans la ville de Culiacán. C'est le cinquième journaliste assassiné au Mexique depuis le début de l'année. Le rappeur tunisien Welb El-15, l'une des égéries de la révolution tunisienne, a lui été condamné à 13 mois et demi de prison ferme pour violence conjugale, menace de mort, consommation de produits stupéfiants et outrage à agent public par le tribunal correctionnel de Saint-Malo. Et puis sachez que Edinson Cavani a été sacré hier soir meilleur joueur de Ligue 1. Il succède à Zlatan Ibrahimovic, on parle de football, voilà. Ça va lui valoir une prime de 1 million d'euros, plus un autre million d'euros de prime, hein, pour son titre de meilleur buteur, 49 buts en 48 matchs. Voilà, moi j'aimerais bien, quand je travaille bien, avoir des primes.
Oui, mais alors vous savez, vous avez un million d'euros. Avec les taxes, c'est très vite,
c'est
950 000.
Bien sûr.
Là-dessus, ça va très vite maintenant. 7h04, mes invités politiques. pour commenter cette nouvelle nomination du Premier ministre Édouard Philippe. Avec moi, Ahmed Khelif. Ahmed Khelif, vous êtes représentant du mouvement Journalisme Politique et Naturisme.
Oui, et tout à fait.
Avec toute une théorie là-dessus.
Là, je me suis habillé aujourd'hui.
Oui, alors vous êtes. Et je suis avec François Rollin, président du mouvement En Avant les Jeunes, qui suit des jeunes dans la rue et ensuite... Alors, est-ce que, d'après vous, c'est une lâcheté supplémentaire du gouvernement Macron de nommer un homme la double prénom qui permettrait de se défausser « c'est pas moi, c'est Philippe » ou « c'est pas moi, c'est Edouard » ? Est-ce que vous croyez qu'il y a cette tentation du non-choix, pas de nom de famille, que des prénoms ? Est-ce encore, vous croyez, une absence d'engagement ?
Non, c'est un choix d'aller chercher un double prénom, un peu paillette, comme Claude François, Frédéric François, Édouard Philippe.
Voilà. Voilà, on sent le retour des années yéyé.
Des années yéyé, des années Carpentier, les années Maritier.
Vous pensez que c'est un hommage, les années bonheur, ça n'est pas votre ami, François.
Oui et non, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, remonter plus loin, il faut remonter jusqu'au Havre, jusqu'au port du Havre. Il faut se figurer les dockers qui n'ont pas une vie facile, il faut se figurer ces énormes bateaux, ces paquebots, parfois des transatlantiques,
parfois,
des bateaux qui déchargent des marchandises ou qui en chargent. Il faut se figurer tout ça, c'est-à-dire...
Sans parler des bombardements pendant la guerre, puisque je rappelle que le port de Havre a été ravagé par les bombardements alliés, qui plus est, non pas allemands, mais alliés.
Et entièrement refait en placo.
Entièrement, donc d'où forcément il y a une culture du prénom, parce qu'il fallait se cacher, on ne pouvait pas donner les noms de famille.
C'est peut-être un pseudo. Oui, tout à fait. Vous avez un problème
à la bouche. Voyez. Allez, c'est bon, on y voit plus clair.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2h d'émission, mais c'est beaucoup trop court. Plus près de toi.
Alors, ça n'aura échappé à personne, puisque même Ahmed Khelif prétend en avoir été victime. Il y a eu là, depuis quelques jours, une cyberattaque géante, une attaque sur des... On annonce 200 000 entreprises attaquées, piratées. C'est tout le système informatique piraté. Qu'en est-il ? De quoi s'agit-il ? Nous sommes avec Nicolas Arpagian, auteur de la cybersécurité aux presses universitaires de France. Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour Edouard.
Écoutez, déjà, on est bien, on est droit, on est assez haut déjà dans le débat, rien que sur ce bonjour. Je sens une acuité dans ce bonjour. Vous savez, ça se sent quand quelqu'un est là ou pas. Je me permets de vous féliciter déjà.
Eh bien, c'est très aimable.
Nicolas Arpagian, quand il y a une attaque comme ça, est-ce que c'est juste pour déstabiliser ou est-ce que des gens récupèrent des données ? Est-ce que c'est un coup de semonce pour après montrer qu'on est puissant ? D'habitude, c'est quoi ce genre de cyberattaque ?
Alors effectivement, votre analyse est fine puisque toutes ces options sont envisageables. C'est-à-dire que d'habitude, ce système d'attaque, c'est-à-dire le fait de chiffrer les données de votre cible, c'est en général l'apanage des criminels. C'est-à-dire ils font ça juste pour l'argent, c'est crapuleux, c'est de l'extorsion, du chantage sur un phénomène assez simple. Je prends vos données, vous n'y avez plus accès, vous souhaitez les retrouver, vous payez. Et en général, ça se passe dans un délai assez court. Là, la seule chose, c'est que vu l'ampleur de l'attaque et surtout vu les cibles, par exemple l'équivalent de l'assistance publique hôpitaux de Paris en Grande-Bretagne, le NHS, c'est pas forcément des cibles très solvables. En plus, on va s'apercevoir que vu l'importance, par exemple, de la santé publique ou des sujets des gares, des transports ferroviaires en Allemagne, évidemment, le gouvernement va se mobiliser, va faire en sorte que les services gouvernementaux, les services de renseignement vont être à la manœuvre. Et donc, si vous n'êtes, entre guillemets, qu'un petit criminel, ou en tout cas qu'un strict criminel, vous n'êtes pas forcément emballé à l'idée que les États commencent à se mettre en ordre de bataille pour vous pourchasser ou en tout cas vous essayer de vous identifier. Donc c'est vrai que là, il y a des éléments un peu contradictoires dans le mode opératoire qui fait que effectivement, par contre, et vous l'avez souligné, ça peut être l'occasion aussi de tester la robustesse des États. Voir, tiens, si on les paralyse, si on commence à les secouer un peu, est-ce qu'ils ont mis en place des plans de secours ? Est-ce qu'ils se sont mis en posture, en position d'être capables de revenir à une situation normale, d'être résilients, comme on dit ?
Nicolas Arpagian, une cyberguerre aujourd'hui, ça serait quoi ? C'est pas forcément s'en prendre au système informatique du ministère de la Défense du pays attaqué. Il suffirait de désorganiser les trains, les hôpitaux, les transports, les ravitaillements ?
Alors, la guerre, évidemment, jusqu'à présent, bon, c'est une activité ancienne dans la communauté humaine, mais il s'avère qu'on a codifié le droit de la guerre. Ça s'appelle le droit des conflits armés. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'était un État contre un État. Enfin, on était dans une logique qu'on qualifie de symétrique. Des entités de même nature juridique ou même de même taille étaient amenées à s'affronter. Avec cette cyberguerre, on peut effectivement envisager l'implication d'acteurs économiques qui vont, de par leur dysfonctionnement, déstabiliser la population. Et c'est vrai que, imaginez des grandes villes de pays européens dépourvus d'eau potable. On pense qu'il ne faudrait pas forcément de très longues semaines avant qu'il y ait des émeutes, qu'il y ait des mouvements de foule. Et on voit bien que si le but est de déstabiliser une nation, même développée, l'arme numérique fait partie des outils certainement efficaces.
Vous voulez dire qu'en fait, on ne se rend pas bien compte que la plupart même de nos activités les plus simples, comme boire, manger, se déplacer, sont liées à des systèmes informatiques aujourd'hui?
Oui, bien sûr. L'ascenseur que vous prenez pour monter à votre appartement ou à votre bureau, le système de paiement qui fait que vous pouvez irriguer l'économie en allant chercher de l'argent au distributeur, le fait que, d'ailleurs, vous avez même confiance dans l'argent que vous avez parce que c'est seulement quelques lignes sur un écran qui vous convaincre que vous avez cet argent en compte, mais également énormément de systèmes de production qui sont à un moment ou à un autre actionnés, contrôlés, mis en mouvement par l'informatique. Donc, comme c'est une informatique qui s'est construite par strates au fil des années, on n'a pas forcément investi sur sa sécurisation. Et aujourd'hui que la fragilité est présentée, démontrée, c'est vrai que le problème, c'est que les économies ne sont pas tout à fait prêtes à dégager les sommes permettant de sécuriser ce qui, pour l'instant, globalement fonctionne et ne permettrait juste qu'une continuité d'activité. Donc c'est vrai que c'est cet argent désormais qu'il va falloir trouver de manière à permettre à l'économie, avec un grand E, de continuer à fonctionner.
Vous parliez d'approvisionnement en eau potable. Il y a des systèmes comme ça de la vie de tous les jours qui sont moins bien protégés que d'autres.
En fait, c'est quelque chose qui n'était pas à prendre en compte à l'époque où ils ont été construits. C'est-à-dire qu'on n'envisageait pas l'attaque informatique comme étant un mode de fragilisation. On a mis des barrières autour de la station d'épuration. On a éventuellement mis un gardien. On a mis peut-être une caméra de surveillance. Mais c'est vrai que le système de pilotage, souvent, on a pris une ligne Internet basique. On n'a pas envisagé de mettre des systèmes permettant de contrôler les usages, les dysfonctionnements, de les identifier les dysfonctionnements et donc de manière à mettre en place des scénarios de récupération ou en tout cas d'alerte. Donc en fait, c'est toute cette stratégie qu'il faut maintenant installer parce que effectivement, bien, on va s'apercevoir que la prise de contrôle de ces équipements ne requiert pas une expertise ni des ressources financières particulièrement importantes.
Alors Nicolas Arpagian, Paris veut une tête, hein, qui a fait le coup ?
Alors ça, c'est là justement le fameux principe policier à qui profite le crime. Là, on voit bien qu'il y a une multitude de coupables possibles. Alors on l'a vu, les activités criminelles, ceux qui sont des utilisateurs des solutions de chiffrement à des fins purement de racket, d'extorsion, ça c'est une catégorie. Simplement, il s'avère que l'avantage du moyen de paiement qui est le Bitcoin, cette monnaie virtuelle qui a été utilisée, puisque là on ne paye pas la rançon en euros puisque ça faciliterait la traçabilité et donc l'identification des auteurs, donc ils rechignent à utiliser évidemment les euros. Le Bitcoin permet que ce sont des porte-monnaies publique et on a une petite idée de ce qu'a rapporté cette grande campagne. Vous évoquiez plusieurs centaines de milliers d'entreprises visées à l'échelle internationale, de la Russie aux confins de l'Europe. C'est vrai que on est sur quelques centaines de milliers de dollars, et c'est vrai qu'au regard des dysfonctionnements, au regard de l'implication des entreprises, des administrations visées, tout ça pour ça, évidemment ça n'en fait pas forcément quelque chose de rentable, oui, mais de très performant, non. Et c'est là où dans les auteurs, effectivement, la déstabilisation étatique ou d'une ambition justement d'une organisation criminelle, mais à des fins de déstabilisation politique, peut être envisagée.
Des noms, Nicolas Arpagian, des pays.
Ah non, alors bien sûr, on ne peut pas, parce que justement, et c'est une des particularités de cette cyberguerre, où il n'y a pas besoin, justement, avant, quand vous êtes dans l'affrontement conventionnel, vous avez des troupes, des soldats qui ont des uniformes, des équipements militaires qui peuvent, à un moment, désigner, vous voyez bien la langue des soldats, vous voyez bien la nature de leurs équipements, peuvent commencer à désigner un pays, et on l'a vu notamment dans l'Est de l'Europe, lorsque des troupes, même si elles avaient dégrafé les éléments distinctifs de leur uniforme, on pouvait envisager éventuellement qu'ils appartenaient à l'armée russe.
Vous ne voulez pas donner de nom, Nicolas Arpagian. Vous servez des intérêts nord-coréens depuis des années. C'est très connu dans le métier.
Non, c'est pas
vous
ça.
Vous touchez au seuil. Vous touchez chez Flammarion. Vous touchez en Corée du Nord. Vous touchez chez les Ruskov.
Je ne voudrais pas créer de déception une fois qu'on l'identifiera. Mais par contre, en fait, c'est aussi de rendre possible. Il faut garder à l'esprit que cette géopolitique a évolué.
Il faut beaucoup de monde, Nicolas Arpagian, pour arriver à faire ça.
Non, pas pour faire du rançon logiciel, puisque comme vous l'avez vu, en fait, son mode de propagation, en fait, c'est la défaillance. Si votre système d'information n'avait pas été mise à jour, c'est cela qui vous désigne comme cible. C'est un peu comme si on pouvait automatiquement repérer les gens qui n'avaient pas fermé leur voiture dans la rue. Simplement, avant, il fallait le faire manuellement et vous déplacer et essayer chaque voiture une à une. L'informatique permet d'automatiser ce type de recherche. Et en fait, c'est la faiblesse de leur système d'information qui a désigné aux pirates les cibles.
Je vous remercie, Nicolas Pagian. On va avancer quelques noms ici parce qu'on est une émission sensationnaliste.
Je vous écoute avec attention.
Je rappelle que vous êtes l'auteur de la cybersécurité aux presses universitaires de France et votre précédent ouvrage était « C'est la faute des Chinois, des Ruskovs, des Africains, des Arabes, des Russes et des Nord-Coréens et de Trump ». C'est ça votre... Non, ça c'est pas de vous. Qu'est-ce que vous dites, Ahmed?
Oui, la solution pour arrêter.
La solution, c'est rester chez vous avec
le pigeon. C'est quoi? On va faire quoi alors pour s'en tirer?
Il a dit qu'on allait sécuriser.
Parce que moi, mon ordinateur, il a bugué là aussi.
Non, mais ne vous mentez pas. Vous voulez être dans l'époque.
Mais si, je suis dans l'époque.
Merci, Nicolas Pagian.
Je suis l'époque. Je suis l'homme du moment.
Si toi aussi tu veux être dans l'époque, si tu veux être important, si tu veux te sentir solidaire de la grande chaîne de catastrophes et d'espérance, fais-toi pirater ou pirate toi-même ton ordinateur. Tu pourras dans les dîners, dans les cafés, dans les transports publics ou simplement à la machine à soupe de ton bureau dire « Dis donc les gars, je sais pas ce qui se passe, il m'arrive la même chose que le Patagone ou que l'entreprise Renault, on m'a piraté mon ordinateur ». Homme important, tu te verras reçu par les huiles de l'entreprise. Ça ne sera plus seulement le sous-directeur du chemin ou le directeur du troisième étage du chemin, mais peut-être même le PDG diront « Comment ? Kélif a été piraté ?» Dis donc, c'est pas de la merde, Kélif ! Montrez-moi cet ordinateur. Oui, ah non, simplement, il faut mettre un petit peu de courant.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
7h-9h,
Édouard Baird. 7h-9h, oh, à mon avis, il fait pas ça pour rien.
Je dis à François Rollin qui est parti complètement sur le morceau. Il est parti complètement là. François s'appelle comment cette Corée?
Et ici, ce tramp dance.
C'est une danse qui se passe dans quelle partie du monde on danse
hein? Ah, ouais, c'est anglo-saxon tout ça.
Ah, c'est, oui,
là, on est sur le pop rock anglo-saxon. Enfin,
je l'ignorais. Est-ce que quelqu'un pour le club de Canoisseurs a un petit billet sur la Bretagne? Était en Bretagne. Oui, François, c'est le même. C'est le même. Il était en Bretagne. Il va nous dire pourquoi, pour qui, comment, combien, quand et où.
Bon alors, évidemment, sur le plan technique, sur le plan formel, j'étais là-bas pour tourner le clip du groupe Sons of Liberty, dont je vous ai parlé.
Oui, je vous félicite, mais François, pour votre carrière de clipper.
Maintenant que je suis rentré, je vous ai surtout rapporté, et particulièrement à Marie Misset, parce que vous savez que mon cœur vibre toujours pour Marie, des images de oui. Bretagne, des images, des sensations.
Des sensations.
Une plage, Quiberon, du sable, oui.
Ah oui, j'y suis là, c'est bien... C'est bien rendu, là, par l'artiste.
Des quignamans, des pierres, des nuages qui vont, qui viennent, qui se louffent, puis hop, ils sont partis, les nuages.
Ah, ils sont plus, ouais.
Une petite pluie qui tombe, hop, elle ne tombe plus. Hop, une petite bière en terrasse.
Là, Bretagne intime, Bretagne du cœur, Bretagne loin des sentiers touristiques. François Rollin nous montre sa Bretagne à lui. Une Bretagne proche des Bretons, au ras de l'humain, vous disiez.
Et des Bretonnes, pardon pour le clin d'œil.
C'est très joli, bien sûr, féminiser le mot breton afin de rendre hommage à toutes leurs épouses, leurs sœurs, leurs mères, leurs filles, les Bretonnes. François Rollin, vous nous avez fait traverser ce pays d'extrême-ouest par des sentiers peu battus jusque-là.
De Rennes à Brest, en passant par Morlaix, Lannion, Landerneau.
Qui dit mieux ?
Châteaulin, Quimper, Vannes, Lorient, Redon, Loudéac.
À pied, en voiture, à cheval, en train.
La Bretagne se consomme dans tous les... Sur tous les comment disait-il Talleyrand? La Bretagne se consomme... Pas la Bretagne, la consommation de la Bretagne se fait dans les... Tous, disait Talleyrand.
Alors il disait aussi...
Il avait bu Talleyrand.
Il parlait de la rencontre pour être l'homme... de son temps, il faut être l'homme de son époque. L'homme de son pays, il faut être... C'est Fabius qui l'a dit à Macron.
Il lui a bien dit.
Ça, je peux te dire, il lui a dit. Parce que c'était pas lui, l'homme de son époque.
Il a envoyé dire.
Pas Fabius. Alors, d'autres informations, d'autres nouvelles, d'autres curiosités qui sont là, qui sont dans la vitrine de ce brocanteur du quotidien qui est le journaliste ici, mais dans l'arrière-boutique. Qu'avez-vous trouvé, Marie Misset?
Un nouveau rapport, justement, en parlant de breton, ça tombe bien. Un rapport qui dit qu'il ne faut pas boire plus de 10 verres d'alcool par semaine, mais ce n'est pas ça la nouveauté. Sortez, et oui,
dans les lieux communs sur la Bretagne, oui.
Voilà, dernière recommandation d'un rapport d'experts récemment remis aux autorités sanitaires. Ils sont allés voir ce qu'on disait déjà à l'Antiquité sur l'alcool et ils ont retrouvé ce texte d'un poète grec qui s'appelait Eubulus et qui disait Trois verres que je sers pour les personnes sobres. Un pour la santé, qu'ils finissent en premier. Le second pour l'amour et le plaisir. Le troisième pour dormir. Quand ce dernier est bu, les invités sages rentrent chez eux. Après, les choses se détériorent rapidement. Le quatrième bol n'est plus le nôtre, mais appartient à l'orgueil. Le cinquième au tumulte. Le sixième à la bêtise. Le septième aux yeux noirs. Le huitième fait venir la police. Le neuvième provoque des vomissements. Et le dixième appartient à la folie et au jet de meubles.
C'est magnifique, le quatrième. Donc, à partir, donc les trois premiers sont accordés, on sait ce que c'était
comme
boisson.
C'est pour les gens sages. Il me semble que c'est du vin. Hein. Mais
alors, c'est par bol, alors je ne sais pas quelle était la contenance de ce bol, évidemment.
Du cidre, probablement.
Oui. Hein, alors donc, trois, ça va ensuite l'orgueil.
L'orgueil,
le tumulte, puis la bêtise, mais le jet de chaise m'attire assez.
Il faut aller jusqu'à 10.
Il faut aller au bout. Hein.
Sur le huitième, il y a les pleurs.
On ne peut pas prendre le dixième avant, non. Parce qu'il a l'air plus amusant de le prendre
mais
en quatre.
Mais on peut jeter des meubles comme ça, vous le faites parfois.
Moi, je suis allé jusqu'au huitième, souvent on pleure et on raconte sa vie.
Je m'étonnerais, Atmen. Qu'avez-vous, Atmen?
Alors moi, j'ai un truc qui s'appelle les cadenas de l'amour. Alors, ce n'est pas le titre d'un gros sitcom de Azoulay sur TMC, c'est plutôt une exposition et surtout une vente aux enchères qui a lieu au Crédit Municipal ce week-end. Ce sont les cadenas qu'on a mis tous sur le pont de l'Alma. Moi, j'en ai mis en 2000.
C'est sur le pont des Arts, plutôt.
Pont des Arts, pardon. Pourquoi j'ai dit
pont des Arts à Paris, dans le 6e arrondissement. On peut mettre un cadenas quand on est amoureux de quelqu'un ou de personne. On met un cadenas avec les prénoms des personnes concernées.
On n'a plus le droit. Alors, justement, le pont a failli céder parce qu'il y avait des tonnes et des tonnes de trucs. Alors, on mettait le cadenas, on jetait la clé dans la flotte, un peu comme dans la chanson de Michel Jonas, je mettrai mon cœur dans du papier d'argent et jetterai la clé aux abonnés absents, oui. Voilà. Et donc, ils ont récupéré des grilles, ils les ont mis au Crédit Municipal, ils en ont eu pour 250 000 euros qui seront répartis pour les réfugiés, les petits-enfants et les gens d'Emmaüs. Les petits-enfants, orphelins, tout ça.
Donc, on ne peut rien dire quand on nous a notre cadenas parce que c'est pour une bonne cause.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu comme Marcel Campion met sa grande roue dans Paris sans autorisation et après, il fait un gala contre le cancer pour qu'on puisse rien dire. C'est,
oui,
ça.
C'est très bien fait. Mais surtout, moi, je suis un petit peu lésé parce que j'ai payé ce cadenas 25 francs à l'époque, c'était en 99, et il est revendu 250 000 euros, on me doit de l'argent.
Oui, moi la chute ne m'a pas convaincu, François. Bah, non.
On lui en doit un petit peu.
Peut-être un petit peu, au prorata.
Au prorata, un petit peu.
Bien entendu.
Voilà.
Merci.
Pourquoi une chute obligatoirement un petit peu d'amour? Ça aurait été bien sur ce point. Oui.
Marie, autre chose.
Vous voulez une autre chose?
Oui, bien sûr.
Alors, deux infos sur le Japon. La première, il y a un phénomène, mais qui est vieux maintenant au Japon, qui s'appelle le phénomène des Jōhatsu, les évaporés. C'est les gens qui organisent leur propre disparition. Et puis hier, vous aviez au téléphone notre marinière brestoise, notre...
Erel Pelé, oui, notre ami qui pêche le...
Eh bien, sachez qu'au
sèche Saint-Jacques.
Au Japon, il y a une application qui existe pour se faire réveiller par un pêcheur. C'est-à-dire qu'on demande à un pêcheur de nous réveiller à 6h du matin et tous les matins, un pêcheur vous appelle.
L'idée quoi? C'est de se rapprocher de la mer par le biais c'est quoi?
L'idée peut-être c'est d'avoir au téléphone quelqu'un de très 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 réveillé à 6h du matin alors que vous ne l'êtes pas du
quelqu'un
tout.
Quelqu'un de sûr qui va nous réveiller, un pêcheur.
Peut-être
donc.
De donner un peu d'argent en plus au pêcheur quand il n'y a plus de poissons
on
dans la mer.
On ne peut pas se faire vider par un, réveiller par un videur de boîte de nuit qui va
vous
se coucher.
Vous êtes bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un poisson d'avril. Hein.
Mais un boulanger pour vous réveiller, il commence son pas à 4h du matin.
Ou peut-être c'est un pêcheur d'homme simplement de se faire réveiller par quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté. Merci.
Non mais j'adore l'idée.
Marie Missé. Voici le journal de Thierry Barrel, rappel des titres de 7h32.
Édouard Philippe dévoilera ce soir la composition de son gouvernement. Non. Le député maire, si, ce soir. Le député maire LR du Havre, très proche d'Alain Juppé, a donc été nommé Premier ministre hier. Invité du 20h de TF1, il a déclaré « On se sent parfois de gauche, parfois de droite. La valeur cardinale de la vie en société, c'est la liberté, pas seulement économique, mais de penser, la liberté d'expression. » Fin de citation. Pour son premier déplacement comme Premier ministre, Édouard Philippe s'est rendu mardi soir à la préfecture de police de Paris. Le mouvement La République En Marche a publié hier soir une nouvelle liste de noms pour les législatives, parmi lesquels environ 80 centristes du Modem, ce qui devrait sensiblement calmer François Bayrou. L'alliance entre Debout la France et le FN avant le second tour de la présidentielle a volé en éclats à moins d'un mois du premier tour de ces législatives. Le Front National investit un candidat dans l'Essonne face à Nicolas Dupont-Aignan. François Fillon, pour sa part, est à nouveau convoqué par la justice. Ce sera le 30 mai prochain. Les magistrats enquêtent toujours sur les soupçons d'emploi présumés fictifs dont auraient bénéficié l'épouse et deux enfants de l'ancien Premier ministre. Selon le Washington Post, Donald Trump aurait révélé des infos hautement classifiées au chef de la diplomatie russe et à l'ambassadeur de Russie aux États-Unis lors de leur récente rencontre la semaine dernière à la Maison-Blanche. Les informations partagées par le président américain concerneraient, toujours selon le Washington Post, le groupe État islamique et la Maison-Blanche, elle dément. Cinq journalistes ont été tués au Mexique depuis le début de l'année. Le dernier en date, Javier Valdez, pigiste de l'AFP, a été assassiné hier dans la ville de Culiacán, dans le nord-ouest du pays. 49 buts en 48 matchs. Edinson Cavani est le meilleur buteur du championnat de France de football. L'attaquant du PSG a surtout été sacré hier soir meilleur joueur de Ligue 1. Il succède à Zlatan Ibrahimovic. Ces deux titres devraient lui rapporter une prime de 2 millions d'euros.
Merci beaucoup Thierry Paret. Tout de suite, nous allons dans le couloir voir Sarah où en sont les locaux de Nova.
L'état de la France.
L'état de la France, ah, tu parles.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
Là tu vous êtes en train de faire quoi là?
Là, j'entendais passer l'aspirateur sur le loco.
Alors c'est un, là, il y a plusieurs modes aspirateur parce qu'il y a la mode sur moquette où on met du où on met qu'est-ce qu'on met, il y a un petit truc à moquette. Là, on est sur une surface qui est plus plane, donc on met quel mode d'aspirateur?
Ah.
On rentre le petit oui. La partie brosse.
Oui, là on rentre la partie brosse ben, pour bien aspirer. Là pour bien l'aspirer. Et si on voulait aller sur les moquettes aussi, là on fait des trucs là pour les moquettes.
Là on passe là. Dans quel état sont les locaux de Nova ce matin, Sarah?
Ça va, c'est bien propre en ce moment.
Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Peut-être qu'il y a eu des directives depuis qu'on a parlé à la radio l'autre jour, les gens sont...
Depuis qu'on a parlé à la radio, là, il fait plus attention de ranger bien leur bureau et tout.
Donc ça sert à quelque chose de faire passer le message?
Oui, ça sert à quelque chose.
Parce qu'il y a plusieurs méthodes ou la menace, hein. Si vous étiez venu avec deux vigiles qui tapent sur les... qui tapent sur les doigts des mecs qui commencent à... Soit, le, voilà, faire passer le message.
Oui, c'est ça. Mais le message, ça a été bien passé.
Est-ce qu'il reste, qu'est-ce que le nid de saleté aujourd'hui dans ces locaux et peut-être plus généralement dans le pays?
Oui, il y a ni saleté, tout est propre.
Il n'y a pas des petits nids, des petits endroits qui restent un peu dégueux?
Non, pour l'instant, non.
Bon, alors très bien, on reviendra vers vous. Vous me signalez chaque endroit qui sera resté en état poussiéreux, ou je dirais des acariens auraient pu rester, on viendra. François Rollin, vous êtes depuis toujours un défenseur d'une hygiène impeccable, pas tellement hygiène corporelle, qui est un autre sujet qui serait une façon de faire la morale à nos concitoyens, mais vous me disiez les lieux doivent rester dans l'état dans lequel on aimerait les trouver. Vous êtes l'auteur de cette phrase qu'on placarde souvent dans les toilettes. Voilà. Et c'est celui dans les... Je sais, à chaque fois que
je suis
ça...
content que vous citiez cette phrase parce que beaucoup essayent de me faire passer pour un ayatollah du ménage.
À aucun moment. Non, on
est loin de ça. Simplement, un peu de discipline, un peu d'hygiène, un peu de rigueur pour le bien-être général, tout simplement.
Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette phrase, je rappelle qu'à chaque fois qu'on la lit, hein, les placarder dans des lieux publics, laisser cet endroit dans l'état où vous aimeriez le trouver en entrant. Voilà. Il y a aussi cette idée de laisser à chacun son libre arbitre. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Personne n'a envie de trouver le même endroit dans le même état.
Voilà. Et donc, il est vrai que les gens qui ont envie de trouver... par exemple, des sanitaires dans un état absolument lamentable.
De votre point de vue, lamentable, de votre point de vue, François, ne jugez pas, ne mettez pas de la morale.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Sont autorisés.
À les massacrer.
À les massacrer.
Massacrer, c'est-à-dire, alors, on ne va pas rentrer dans le détail, absence de tirage de chasse d'eau, papier par terre. Voilà, oui, oui. Mais il faut pouvoir attester. Hein, du fait qu'on aurait aimé les trouver comme ça.
Ah, bien sûr, c'est-à-dire qu'ensuite, il faut montrer comment, lorsqu'on se dirige vers des sanitaires,
propre, selon
nous, on n'y va pas.
On n'y va pas, on est consterné. En revanche, si on peut être attiré, il y a des noms pour ça, par des sanitaires massacrés, hein, des sanitaires consternés.
Allez-y, détaillé.
Non, mais monsieur, je vous en prie, s'il vous plaît. Et là, et se réjouir, dit voilà, c'est comme ça que j'aurais aimé les trouver. Voilà. Moi, c'est bon pour moi. Oui, pardon, avec Jacques souvent dans la rue. Atmel, je vois une photo de vous avec Enrico Macias, là.
Oui, c'est...
Vous me raconterez.
Parce que j'ai été piraté.
Oui. Jacques,
ça recommence. On a une information capitale.
Ah oui, en effet, oui.
Joli. C'est un générique.
Ah, c'est le générique de...
L'attaque des titans.
C'est l'attaque des titans?
Oui, l'attaque des titans.
Bonjour.
C'est notre chroniqueur de manga In the Street.
Ah, c'est la nouvelle rubrique Manga in the Street. Comment t'appelles-tu?
Zachary.
Zachary, bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans Manga in the Street aujourd'hui?
On va parler de To Your Eternity.
To Your Eternity, c'est un manga qui vient de sortir?
Ouais.
Qu'est-ce qui s'y passe?
L'auteur, c'est qui? L'auteur, c'est Yoshitoki Ohima.
Alors, pendant ce temps-là, Atman et François notent. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce manga? Qu'est-ce qu'il a de remarquable?
Bah, en fait, l'histoire est très spéciale, donc là, je vais raconter. En fait, c'est l'histoire d'une sphère qu'on ne sait pas trop ce que c'est, qui a été envoyée sur Terre. Et d'abord, elle pouvait prendre la forme de n'importe quoi.
Une sphère?
Une sphère, oui.
Oui. Elle a d'abord pris les états de pierre, puis de mousse, puis d'un loup. Après, le loup a été accompagné d'un... a retrouvé un humain. Et après, il a pris du coup la forme d'un humain.
Et c'est une sphère au départ, mais qui ne reste pas sphérique.
Oui.
Oui.
Et après, il va jusque dans un village humain.
Oui.
Où il y a un sacrifice qui est en train de se faire.
Oui.
Et la sphère qui est transformée en humain sauve une petite fille du sacrifice.
Ça, c'est bien.
Il se lie d'amitié.
Oh.
Et,
oui.
Ça, c'est bien. Et voilà. C'est à peu près le début de l'histoire.
Bah jusqu'ici, tout se passe bien, plutôt Zachary. Dans les mangas, il n'y a jamais de texte du tout. Il n'y a même pas une phrase, il y a juste des « oh, ah » ou il n'y a rien du tout.
Bah si, il y a quand même beaucoup de textes dans certains.
Ah, celui-là est dialogué un peu ?
Bah oui.
Alors Zachary, où est-ce que tu lis des mangas ? Dans les transports, chez toi ?
Chez moi surtout, et des fois quand je ne les ai pas finis, je le fais pour aller à l'école.
Est-ce que tu es un peu déçu de la vie quotidienne quand tu sors d'une aventure d'une sphère qui est devenue loup, qui est devenue être humain, qui a sauvé des femmes dans des villages, qui rebondit, qui change de planète et qu'on te dit à table et qu'il y a du steak haché ? Est-ce que tu trouves la vie décevante ?
Bah pas quand je vais à table, parce que manger c'est bien aussi.
Donc tu arrives à faire le grand écart entre la vie de ton ventre et la vie de ton imaginaire ?
Oui.
Et est-ce que parfois, dans ton imaginaire, il y a des plats qui surgissent comme ça, dans ta tête, quand tu as faim, et des plats qui sont aussi exotiques que cette sphère qui devient humain ? Quand tu fermes les yeux, tu penses à quoi, par exemple, comme plat ?
Des plats avec de la sauce, de la viande.
Viande, sauce, et tu as dit ?
Et d'autres choses, ouais. Et desserts aussi.
Alors, sur les sauces, on serait sur quelle sauce ?
Je sais pas trop... Il n'y a pas marqué le nom de la sauce dans l'imaginaire.
Ce sont des sauces à base de quoi ? Est-ce qu'il y a des fonds de sauce chez vous dans le frigo ? Est-ce que papa ou maman laissent un petit fond de sauce ?
Ouais, des fois, mais c'est pas, ils ne sont pas très bons.
Ils sont pas très
bons. On a un monsieur avec des lunettes qui nous observe. Bonjour, monsieur.
Je vais vous regarder, monsieur.
Ça va ?
Oui, ça va.
Vous demandiez ce qu'on faisait ?
Oui.
Eh bien, on fait une interview pour une radio.
Ah, d'accord.
Et vous ? Où, là ?
Bah, je vais aller au boulot. Ah ouais ? À Montreuil.
C'est pas loin ?
C'est à côté.
D'accord, c'est quoi comme boulot ?
Je fais de la livraison.
Ok.
Et en nourriture, monsieur, il en est où ? C'est quoi ses plats préférés, ce monsieur ?
Vous mangez quoi, vous, normalement, la journée, quotidiennement, vous consommez quoi ?
Moi, je mange du lait et des baguettes.
Toute la journée ?
Non, le matin.
Et le soir ?
Du lait et des... un grec. Du maïs.
Le matin, du maïs et du lait, et le soir, un grec.
Voilà.
Et un repas de fête, voilà. Ça serait quoi, alors ?
Un grand repas d'anniversaire, un repas où on fait la fête. Qu'est-ce que vous mangez à ce moment-là ? On mange bien, là.
Des pizzas ou des gâteaux ?
Des légumes, merci, monsieur. Jack vous dira, monsieur, je voudrais qu'il mange un peu de légumes verts.
Ah, un petit peu de légumes. J'ai un conseiller diététique à l'autre côté, au casque. Il vous dit de manger un petit peu de légumes verts. Un petit peu de haricots verts.
Oui. Oui, des haricots verts, des choux verts, de tout.
Bon, vous le ferez dorénavant, hein. D'accord. Je ne vais pas avoir à me déplacer. Merci à Zachary, journée. Merci à Monsieur Lay Maïs, merci à Jacques Souvent, merci à ce pays qui m'a vu naître et qui m'a donné ma chance. À bientôt.
Salut.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ?
Ah, il fait une chaleur dans cette émission.
Alors, dis donc, je regarde le journal. Philippe Sprang.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est ce soir le documentaire
Non, c'est pas ce soir, c'est quelque chose qui a été tourné.
Oui, mais il passe, je crois, sur FR3 ce soir, non ?
C'est fort possible.
Le documentaire Mon ami droit.
FR3, dites donc.
Qu'est-ce que j'ai dit ? Ça s'appelle que France 3, j'ai dit, ça s'appelle pas comme ça ?
Si, si.
Dis donc, alors, ça passe. Alors ce soir, il y a ce documentaire Mon pote de droite sur le nouveau Premier ministre Édouard Philippe, c'est un ami à lui qui le suit depuis plusieurs années, et ça passe tout à l'heure, et vous l'avez vu, Philippe Sprang, en avant-première.
On peut dire ça, c'est 2,60 €, c'est 2,60 €, 2,60 € sur Vimeo, donc voilà. Et
Vous voulez dire que c'est pas un avantage d'un mec qui a eu sous le menton un rendez-vous louche à la sortie d'un métro,
non,
tu me laisseras le sac de papier avec le... Bah bon, d'accord.
Et donc,
on écoute la
situation, c'est Édouard Philippe qui présente le réalisateur auprès d'une assemblée de fans, d'élus, de supporters
on est républicains. On est au Havre, dont il est le maire.
Une petite salle de réunion.
Une question ? Deux questions ? Parce que moi, il faut que je passe aux photos. Non, mais sérieusement, vous avez des... c'est bon, on est entre nous, hein. Alors, pardon. Lui, il s'appelle Laurent Sibien. Laurent Sibien. Il était à l'école avec moi. On était à l'école ensemble, juste après la terminale. Et voilà. Alors, c'est un gauchiste. Non, mais je vous préviens, c'est un vrai gauchiste, tendance écolo, ultra-gauche, un vrai gauchiste. Mais quand même, il est gentil. Et surtout, il y a 10 ans, il a décidé qu'il allait, à intervalles réguliers, me filmer. N'ayez pas peur de parler librement, pour une raison très simple, c'est qu'il filme, mais il a juste pas vendu son film. Donc, il y a des chances assez raisonnables qu'il ne le vende jamais. Donc, déjà, bon... Je ne contrôle pas ce qu'il fera de son documentaire.
Alors, on sait ce qu'il en a fait, puisqu'il passe ce soir à France 3. Donc, voilà la présentation du réalisateur par le nouveau Premier ministre. Qu'est-ce qu'on découvre sur Édouard Philippe dans ce documentaire, Philippe Spang ?
On découvre une ambition déjà absolument démesurée, qui est un peu retenue pour la caméra.
Bah c'est mal l'ambition, Philippe
non,
Spang ?
Non, c'est plutôt pas mal, puisque moi, regarde, je suis content, je suis ici.
T'as les dents qui rayent.
Ah, j'en peux plus. Non, mais une ambition contenue, mais surtout, tout est au service de cette ambition, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien... lui, idéologiquement, ni intellectuellement, ce qu'il porte, si ce n'est que le pouvoir et, en fin de compte, la liberté, mais la liberté pour la liberté d'entreprendre.
Permettez-moi de vous interrompre déjà. Intellectuellement et idéologiquement, ce n'est pas exactement la même chose. Pourquoi devrait-on incarner une idéologie pour faire de la politique
Non, mais pour avoir une ou deux, un petit peu de fantaisie, un petit peu de quelque chose d'humain, quelque chose d'intérieur qui ressorte. Et, en fin de compte, il n'est même pas encombré de lui-même, alors qu'il devrait, parce qu'il est quand même... Il s'aime beaucoup et surtout il est assez paternaliste, hein. C'est-à-dire qu'il se met à chaque fois au niveau de son interlocuteur pour dire je me mets bien avec tout le monde, ben, il veut être sympa avec tout le monde et il veut sans arrêt être aimé, donc il fait des vannes au niveau de tout le monde, il fait des petites plaisanteries. Par exemple, il voit des jeunes gens qui sont dans un lycée, donc il vient expliquer la politique, alors il dit, et au tableau, donc les gamins ils font la gueule, ils disent c'est qui ce type, ils sont pas très... très enthousiaste, et puis lui essaie de les dérider un petit peu. Il dit, qu'est-ce que c'est que la politique ? Ben, la politique, c'est comme la conduite, c'est comme la voiture, il y a ceux qui conduisent et ceux qui se font conduire. En gros, il y a ceux qui font les lois et ceux qui les subissent. Voilà. Donc,
ah non, c'est pas... Attention, je me permets de vous dire, c'est pas, je vous trouve un peu à charge, là. Ça veut pas dire ça, je dirais être conduit et conduire, ça veut pas dire subir et...
Non mais
on choisit, on peut descendre de la voiture, cher fils. Non, enfin,
tout donc, à fait. Mais il réduit sans arrêt les choses à ça.
J'ai l'impression que ça ne lui rend pas très service ce documentaire.
Eh ben non, pas de... moi je trouve pas.
Est-ce que c'est vous qui l'avez vu comme ça ? Vous avez l'impression qu'objectivement ce documentaire donne cette image de lui ?
C'est-à-dire que l'attente qu'on avait par rapport à Macron et par rapport à son ouverture et à cette espèce de type qui ferait une synthèse entre plein de choses. Et donc, si lui, c'est l'expression de sa politique, c'est assez décevant, effectivement, où on s'attend à quelque chose d'un petit peu révolutionnaire. Et en fin de compte, on se retrouve juste à une ambition qui porte pas l'espoir vers des horizons incroyables, quoi. C'est assez cheap, tout ça.
C'est peut-être le documentaire, hein, après. Qu'est-ce que vous avez quand même aimé que nous fait découvrir ce documentaire sur ce nouveau Premier ministre ?
Ben, pas grand-chose,
bah très honnêtement. Bah non, merci de prendre
c'est au niveau de ma déception, c'est-à-dire que...
Vous attendiez quoi sur un documentaire sur
bah, je m'attendais, je me dis, vu quand même qu'on nous a joué un suspense incroyable, qui est ce type, vous allez voir, est-ce qu'il va être nommé ou pas ? Donc du coup, il y a une attente qui a été créée, puisque, en fin de compte, c'est lui qui va être en première ligne. C'est lui qui va, grosso modo, il lui laisse les clés du camion, Macron, c'est ce qu'il a dit. Et en fin de compte, eh ben, le conducteur, ben, voilà, je pensais qu'il allait m'emmener sur un voyage assez sensationnel. Eh ben, c'est assez plan-plan, assez très chiant. Et je trouve le type extrêmement paternaliste, surtout. Et que, par souci d'ambition, il se met au niveau de toutes les personnes. Et il y a un petit côté méprisant quand il s'adresse aux gens.
En tout cas, ça ne m'a pas l'air d'être un grand communicant.
Oui, mais alors, par exemple, qui n'aurait pas ses défauts ? Qui auriez-vous nommé, vous ?
Qui
n'aurait pas ses défauts.
D'accord, mais...
Non, mais dites-moi un profil comme ça.
J'ai pas de profil particulier.
Il est assez sympa.
Parce que... moi, j'ai eu un contact avec lui. J'ai été faire un hommage à Pierre Desproges dans un salon du livre au Havre. Effectivement, ce bonhomme est venu comme un politique, hein, serré des mains, un peu de paternalisme. En même temps, moi, j'ai appelé ça plutôt de l'ouverture, de la gentillesse. Il était direct. Je n'avais pas envie tellement de lui reprocher d'être venu nous saluer.
Il ne vous a pas touché la joue.
Il n'a pas tiré l'oreille.
Mais moi, je voulais dire, le peu que j'en ai vu du reportage, on voit quand même quelqu'un. Le reportage n'a pas été fait avec derrière le fait qu'il sache qu'il allait être Premier ministre.
Tout à fait.
Donc, on le suit un petit peu comme quelqu'un de normal. Et il est normal, moi, je le trouve, droit dans ses bottes, comme un maître d'école, c'est vrai, à un moment donné, droit, mais il va être Premier ministre. Il faut qu'il ait l'autorité de la fonction. Et il l'a, on ne peut pas lui enlever ça.
Vous aviez vraiment envie de rêver avant de voir ce documentaire, Philippe Sprang ? Vous l'avez regardé avec ses yeux d'abominable petit gauchiste. Oui, ben, je suis une idée.
Ah, le trotskiste que tu es,
bon,
vraiment.
Merci, Philippe Sprang. Non, non. Je vous en montrerai d'autres, des documentaires. Ça, c'est ce soir. Ça s'appelle Mon pote de droite.
Ouais, et son pote est très sympa, monsieur Sibien, celui qui filme.
Lui, il est sympa.
Lui, il est sympa, c'est vrai. Non, mais il est sympa, c'est vrai. Ils ont...
Sympa, pas
ces
sympa.
Deux amis qui se sont retrouvés comme Rox et Rookie à la fin du truc. Voilà.
À tout à l'heure.
Plus près de toi, Edouard Baer.
Je suis avec Maë qui est là. Et on est en train de parler avec Maë du problème du réveil le matin. C'est quoi ta sonnerie préférée de réveil, toi, Maë?
C'est quand c'est doux, le réveil.
Donc, je te fais écouter des sonneries, tu me dis laquelle tu choisirais, toi. C'est pas terrible, ça, si?
Non.
Ça, on n'aime pas tellement. Hein? T'aimes pas non plus? Non, c'est...
C'est
horrible, ça. Et ça?
Ça, c'est mieux.
Ça, c'est pas... C'est ça que j'ai le matin, moi. On serait mieux? Alors, sinon, tu peux avoir des choses. Qu'est-ce que vous avez en musique, sinon... Regarde. Pour se réveiller le matin... Attends. Milka, regarde. C'est plus agréable de se réveiller là-dessus, non?
Ah, c'est mieux.
Mais est-ce que tu as peur, si jamais la musique du réveil est trop douce, qu'on se rendorme?
Ah ouais, ou même qu'on se réveille pas.
On se réveille jamais, c'est-à-dire qu'on se mette à faire des rêves. Là, va, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois, là, quand tu entends cette musique? Quelles images tu as?
Rien.
Tu vois rien?
Non.
Tu t'imagines pas en train de faire quelque chose, sur une plage, en train de faire du vélo?
Non.
Il n'y a pas des musiques qui te font penser à des choses?
Si, ça dépend. Par exemple, c'est une musique de la trompette. J'imagine un garçon qui fait de la trompette, comme ça.
Et tu voudrais que ce soit toi qui est en face de la trompette? Ça te donne envie d'en faire de la trompette?
Oui.
Ça t'est déjà arrivé, par exemple, de voir un spectacle, des acteurs sur scène ou de la danse ou un concert et rêver d'être à la place des gens?
Je crois pas.
Tu te rappelles pas être allé voir un chanteur ou une pièce? Tu dis, ah, j'aimerais bien être avec eux.
Oui, ça c'est sûr, mais j'ai pas rêvé de...
Mais non, mais t'as pas rêvé, mais t'as eu envie, c'était quand t'es allé voir quoi?
Je sais pas.
T'as un groupe, t'es déjà allé à un concert d'un groupe?
Oui, je suis allé à plein de concerts. À la plupart des concerts, c'était comme ça, j'avais envie de venir.
De venir sur scène avec eux?
Oui.
Essaye de te rappeler un en particulier.
Un des spectacles de mon père.
Ah, ton père, il fait des spectacles?
Oui.
C'est des spectacles musicaux?
Non.
C'est du théâtre, alors?
Oui.
Et tu as déjà assisté à des répétitions? T'as vu tout le travail qu'il faut avant de jouer?
Oui. Je suis allée dans les coulisses avec lui.
Ah oui, ma fille aussi, elle adore aller dans les coulisses regarder. C'est très amusant, les coulisses. Hein. Et tu sens le trac, on voit de l'autre côté de la lumière, et c'est pas mal. Mmh. Et il paraît que tu fais du handball.
Moi, je prononce handball. Parce que ça vient de l'allemand, pour de vrai.
Attendez, excuse-moi une seconde. J'ai envie de pleurer. Pardon, je vais...
Toute ta vie vient de défiler, là.
J'ai merdé, c'est entièrement vrai ce que tu dis. Ça vient de l'allemand, c'est Ball, das ist eine Ball, das ist nicht eine Ball.
C'est pas grave.
Si, je me sens pas bien,
c'est pas grave,
j'ai fait une connerie, Maëlle. Tu le répéteras pas?
Non.
Puis on coupera au moment où ça passe à la radio, on la lèvera, puis si on te demande, tu diras que je l'avais bien dit, d'accord? Et maintenant, je vais me venger sur ton poème, mon vieux. C'est quoi ton poème?
Traversée sidérale.
Traversée sidérale, on t'écoute très lentement, hein, Maëlle. Je vais bien me venger sur cette histoire de handball en beau.
À cheval sur ma fusée, partons pour les galaxies, cueillir des fleurs étoilées dans les nocturnes prairies. Adieu les maisons, les prés, la chelem et le verger. À cheval sur ma fusée, partons pour les nébuleuses, cueillir des pommes dorées dans les régions ténébreuses. Adieu l'école, l'hiver, la rue, le chemin de fer. À cheval sur ma fusée, partons pour le fond du ciel, cueillir la roue du soleil qui fabrique les années. Adieu les gens qui s'ennuient dans la peau couleur de suie. À cheval sur ma fusée, partons de l'autre côté, cueillir des chansons nouvelles sur des arbres d'étincelles.
C'est la fin peut-être?
Non, les odeurs. Là.
Ah oui. Adieu les bruits,
la poussière
et les odeurs de la terre. Georges Jean.
Super, bravo. Vous le connaissiez?
Non, parce que j'ai une bonne mémoire.
C'est très joli. On part, on s'envole. Tu sais voler, toi, ou pas?
Non.
Tu aimerais?
Oui.
Où est-ce que ça s'apprend?
Je crois que ça s'apprend pas.
Ah bon?
Non.
Et si tu volais, tu irais où?
Dans le ciel.
Et tu survolerais quoi?
Pas les villes.
T'aimerais regarder par les fenêtres des gens?
Rentrer. Savoir ce qui se passe chez les gens.
Eh ben, je vais te dire ce qui se passe chez les gens. Moi, tout de suite. Bravo, Maë.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Il est 8h sur Nova, les infos, Thierry Paret.
Bernard Accoyer, secrétaire général du parti LR, a beau parler d'une décision personnelle. La nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre pourrait bien poser de gros soucis à la droite. Le député maire LR du Havre, très proche d'Alain Juppé, dévoilera ce soir à 20h la composition de son gouvernement. Pour son premier déplacement, en tout cas comme Premier ministre, Édouard Philippe hier s'est rendu, c'était hier soir, à la préfecture de police de Paris. Le mouvement La République En Marche a publié hier soir une nouvelle liste de noms pour les législatives, parmi lesquels environ 80 centristes du Modem, ce qui devrait sensiblement calmer François Bayrou. L'alliance entre Debout la France et le FN avant le second tour de la présidentielle a volé en éclats à moins d'un mois du premier tour des législatives. Le Front National investit un candidat dans l'Essonne face à Nicolas Dupont-Aignan. Et puis François Fillon est à nouveau convoqué par la justice. Ce sera le 30 mai. Les magistrats enquêtent toujours sur les soupçons d'emploi fictif dont auraient bénéficié l'épouse et deux enfants de l'ancien Premier ministre. Selon le Washington Post, Donald Trump aurait révélé des infos hautement classifiées au chef de la diplomatie russe et à l'ambassadeur de Russie aux États-Unis lors de leur rencontre la semaine dernière à la Maison-Blanche. Les informations partagées par le président américain concerneraient le groupe État islamique. La Maison-Blanche dément. 5 journalistes ont été tués au Mexique depuis le début de l'année. Le dernier en date, c'est Javier Valdez, pigiste de l'AFP. Il a été assassiné hier dans la ville de Culiacán, c'est dans le nord-ouest du pays. Excès de masse grasse entraînant des inconvénients pour la santé, c'est la définition de l'obésité qui au niveau mondial atteint des proportions très inquiétantes. Bien que ces dernières années, les pouvoirs publics de nombreux pays se penchent de plus en plus sérieusement sur ce problème récurrent de santé publique, au point d'ailleurs de le traiter comme une maladie chronique, l'obésité mondiale progresse à vitesse grand V. Certaines évolutions sont spectaculaires, comme celle observée par exemple au Brésil, où l'on dénombre plus de 34% de personnes donc dites obèses. En France, on est à 22% et les taux de population les plus bas du monde en matière d'obésité se trouvent en Asie. Au Vietnam, par exemple, 2,5% seulement. En Corée du Nord, 2,9% et au Japon, 3,3%.
Et en Crète, grâce au régime crétois, il y a un très joli livre de François Rollin sur le régime crétois.
« Matomate à moi ».
Oui, c'est le sous-titre. Oui.
Un autre pourcentage,
un
pas
homme
très
une olive.
Fun. Un autre pourcentage, pas très fun lui non plus, c'est 30%. Il s'agit de l'augmentation des agressions à l'acide sulfurique en Grande-Bretagne ces deux dernières années.
C'est vrai que c'est pas un éclat de rire, ça.
Non, la majorité des attaques à l'acide sont perpétrées par des jeunes hommes, souvent contre des femmes, par dépit amoureux. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi, alors c'est très grave bien sûr, mais on note aussi un recours à des liquides corrosifs de plus en plus fréquents entre gangs. On va rappeler quand même que les agressions à l'acide défrayaient déjà la chronique à l'époque victorienne. L'acide sulfurique qu'on appelait vitriol est d'ailleurs une invention britannique. Et puis pour finir, Cavani qui affole les compteurs avec 49 buts en 48 matchs. L'attaquant parisien est le meilleur buteur du championnat de France de football. Edinson Cavani a surtout été sacré hier soir meilleur joueur de Ligue 1. Il succède à Zlatan Ibrahimovic. Ces deux titres devraient lui rapporter une prime de 2 millions d'euros. Mais comme le disait effectivement Edouard tout à l'heure, après quand on enlève les impôts, les charges et tout ça, il reste beaucoup.
Et puis de toute façon, Edouard, disons-le à l'antenne, puisque vous le disiez en antenne, c'est pas Cavani que vous auriez nommé meilleur joueur.
Non, oui, en plus.
Non, moi je le voyais, il est dans le top 10.
On est d'accord,
moi. Pas, attention, hein.
Oui.
Je dis pas que c'est un ringard.
Non.
Je dis juste quand il s'agit de dire le meilleur. Donc déjà, il faut peut-être prendre un petit peu plus de temps. Ce que c'est que le meilleur, le définir.
Oui, oui, oui.
Parce que je parle même pas d'attitude en dehors du terrain, je parle même pas de passage de balle et tout ça. Voilà. Mais dans l'action, pas simplement dans l'intention. Parce que c'est bien d'avoir du talent, c'est bien d'avoir du génie, mais encore, faut-il en faire profiter la pelouse.
Vous êtes plus Raymond Coppa, vous, je pense.
Non, mais je sais pas si simple, François, non plus. Ouais. Vous voyez, c'est votre petit problème, si je peux me permettre. Ouais. C'est de résumer et de vouloir opposer les gens.
C'est simpliste.
C'est simpliste. Je crois simplement que Cavani, puisque c'est lui dont il s'agit, c'est un bon joueur, grand joueur peut-être, mais c'est pas le meilleur. Voilà. À partir du moment où il y a des spécialistes qui en parlent, on est mieux, on est droit dans nos boîtes. Merci beaucoup.
La journée.
Jacques Souvent,
oui,
t'es avec qui?
Pendant la journée, on va voyager, c'est ça?
Combien de temps?
On aura pour 14 heures à peu près.
Avec tous ses élèves dans le bus?
Oui, avec tous ses élèves. Oui. Mais ça se passe bien, hein, ça s'amuse bien.
Moi, je suis avec Marie-Abelle, qui rentre en Espagne avec toute une classe.
Bonjour Marie-Abelle.
Bonjour, monsieur.
Écoutez, chère madame, il y a un phénomène. Au printemps, mai-juin, on a l'impression que tous les enfants, comme les oiseaux, quittent les villes. Tous les écoliers partent en bus. Quel est ce phénomène naturel?
Je ne sais pas, mais c'est vrai que chez nous aussi, en Espagne, il y a eu beaucoup de voyages, mais surtout au mois d'avril. Hein, maintenant, c'est moins fréquent. Mais oui, hein, c'est vrai qu'on en fait pas mal. Hein.
C'est une migration de saison. Alors, mais dites-moi, vous voulez dire que vous c'est le contraire, c'est un voyage scolaire au départ de l'Espagne?
Voilà, c'est ça. Nous, on vient de Burgos, en Espagne. On vient en échange avec un lycée français, les lycées Arago.
Votre accent français est à l'honneur des relations franco-espagnoles. Vous êtes professeur de français?
Oui, je suis professeur de français, oui.
C'est extraordinaire. Et alors donc, qu'est-ce qu'ils voulaient voir, vos élèves, en arrivant en France? Pour eux, c'était quoi l'idée qu'ils s'en faisaient?
Bon, l'objectif de l'échange, c'était surtout de vivre directement dans les familles.
Oui.
De connaître un peu comment ça se passe dans la vie quotidienne en France. Et évidemment, ça nous a permis aussi de visiter Paris, donc ce qui est génial.
Alors les enfants arrivent, ils sont enfants par enfant dans des familles.
Oui,
Est-ce que toutes les familles rendent les enfants ou est-ce que certaines prises d'affection décident de le garder? Est-ce qu'ils en ont le droit?
Bon, c'est vrai qu'il y a des élèves qui ont été très très contents avec leur famille. Bon, évidemment, ça se passe d'un côté un peu mieux, un peu pire, mais bon, mais en général, tout le monde est content. Hein.
Parce que quand on veut embêter ses parents, on dit ça. Ils sont plus gentils, les parents de machin, je veux rester avec eux.
Voilà, donc, non, ils voulaient pas rentrer, surtout parce qu'après, il faut reprendre le cours. Hein.
Ah, les cours, c'est ça.
Ils sont tous là, on peut leur demander avec qui ça s'est bien passé. Avec qui ça s'est bien passé, là, les familles?
La question va.
Avec qui ça s'est mal passé?
En général, je crois que ça s'est très bien passé. Hein. Donc, oui, c'est vrai. Hein.
Vous leur avez montré les monuments, le Moulin Rouge, le Lido?
On a tout montré. On s'est promené énormément à Paris. On a mal aux pieds. Tout le monde était très fatigué. Alors, on va se reposer dans le bus aujourd'hui. On fera la sieste.
Est-ce que vous aviez des chansons de motivation pour vos jeunes?
Des chansons? Ben non. Nous, on a...
Dans le bus non plus?
Oui, des fois, ils en chantent. Hein, donc,
c'est quoi
oui,
les chansons espagnoles dans les bus, l'équivalent de chauffeur si t'es champion, appuie sur le champignon?
Oui, bon, je sais pas, il y a une chanson qui est un peu qui peut être un peu le même. Donc,
c'est quoi?
On chante, comment on dit attendez, parce que je n'arrive pas.
Je vous en prie, tout mon temps. Ça me ferait plaisir, madame, d'entendre cette chanson de motivation dans les bus espagnols.
Oui, on dit « Para ser conductor de primera, acelera, acelera ».
Vous pouvez le faire reprendre à vos élèves, s'il vous plaît? Ça va nous motiver tous pour
oui,
ce matin.
Ils sont là,
ils sont en train de s'embrasser.
Allez, on réunit tout le monde, là. On réunit tout le monde.
Je suis avec une Française, là.
Allez, je veux cette chanson, on y va. Et nous, on répond par chauffeur si t'es champion.
Une petite chanson.
Allez, la chanson. Allez, chauffeur, allez, on y va.
Allez, s'il vous plaît.
Avec Marie-Abel, la professeure.
Deux secondes, vous vous dites au revoir tout à l'heure. Une petite chanson que Marie-Abel a balancée.
C'est parti.
A ver, me piden una canción que se cante en el autobús.
Sí, por favor, guapa.
¿Eh?
Sí, guapa.
¿Eh? ¿Conocéis esa de para ser conductor de...? Venga.
Vale,
on y va.
Venga.
Para ser conductor de primera, acelera, para ser conductor de primera, no hace falta ser buen conductor, que ya no me sé más.
Hola, muy bien. Merci. Comandante Che Guevara. Aquí. Merci. On s'est senti dans ce bus qui traversait les Pyrénées. C'est magnifique. J'ai vu ce passage de la frontière. J'ai vu Jean Lassalle, l'être avec une grande fourche, vous voir arriver et dire « Oh non, les amis, venez rêver avec moi. » Je vous ai vu arriver, qui est là, avec cette magie espagnole, avec ce pays de violence et d'intensité, de beauté, de soleil noir. Le soleil noir. Le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Merci.
C'est très gentil de vous aussi, les mots que vous avez dit. Bon, je vous remercie.
À bientôt, à tout de suite. Oui, oui,
hasta
oui.
La vista.
Hasta la vista, guapa. Mira.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Oui, Frédéric Becbédé, c'est quelqu'un dont j'imagine qu'on est mardi.
Oui.
On va aller à Cannes demain. C'est quelqu'un dont on imagine qu'il se lève plutôt à 5, qu'il se couche maintenant. On va vérifier tout ça.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non?
Réveillons un monument national.
admirait, enviait ou jalousait, travailleur et désinvolte, intense et superficiel, artiste et malin. Qui est Frédéric Becbédé, cet enfant sauvage et si souple qu'a créé une légende dont il est à la fois le victime et le bénéficiaire? Frédéric Becbédé appartient à cette catégorie d'hommes comme André J qui se disent le matin « Que ferait Frédéric Becbédé à ma place ?» Bonjour Frédéric.
Oui, c'était très bien.
Ça vous va ou pas?
Oui, alors...
Frédéric, il est 8h13, je crois qu'on va dire la vérité aux gens. En fait, vous êtes un homme qui est debout depuis assez tôt.
Oui, depuis 7h23.
Ça commence par quoi?
On entend « Maman, maman, maman ».
Vous dormez avec votre mère?
Non, on entend un petit être qui réclame sa mère.
Alors, est-ce que le fait de se faire appeler maman par ses enfants est une modernité? C'est de lutter contre la loi des genres? Vous choisissez de vous faire appeler maman ou c'est venu très vite?
Oui, je crois. Non, je crois que c'est tout à fait juste. On est aujourd'hui dans une nouvelle époque et il faut savoir s'adapter. Tout simplement, il faut être un petit peu ouvert. Et je suis surpris que vous posiez la question.
Donc, il y a un enfant très jeune chez vous. Donc, forcément, vous n'êtes plus maître du temps. Vous n'êtes pas comme Emmanuel Macron. Non. Vous n'êtes pas le maître des horloges. Hein. L'enfant, c'est l'horloge biologique, bien sûr. Donc, l'enfant se lève à 7h20. Un enfant, c'est d'abord un ventre.
C'est ça. Alors, il y a tout à fait. Il y a des priorités. Elle réclame de l'eau d'abord.
Sous quelle forme? Elle a un âge où elle peut dire le mot eau?
Oui, elle dit yo-yo.
Ah oui.
Ce qui a une autre signification dans la langue française.
Vous pouvez lui donner et un yo-yo et de l'eau. Ensuite, il y a de l'eau.
Voilà. C'est ça, donc un peu d'eau. Ce qui est logique, hein, en fait, on a tous un peu soif en se réveillant. Et puis le biberon qui va suivre.
Combien de dents possède cet enfant aujourd'hui? Est-ce que ça lui donne accès à de la nourriture plus solide?
Il y a un accès, bien sûr qu'il y a des dents, et beaucoup de dents à 18 mois, et donc il y a toutes sortes d'une alimentation très équilibrée.
On est dans le petit pot, on est dans du sucré salé, on est dans le pomme-poire en sucré?
Non, on est dans du légume, on fait un peu les compotes aussi, oui, les compotes, mais sinon, c'est sûr. En fait, elle mange la même chose que moi.
Alors, est-ce que vous êtes comme les actrices qui disent « Mon plus beau métier, c'est maman, devant ma fille, je ne triche pas ». Est-ce que avant l'écrivain, c'est le père qui se lève? Oh la vache. Je pensais pas avoir dit une connerie pareille dans ma vie.
Je dois nourrir pas mal de monde parce qu'il y a aussi ma femme, il y a aussi ma fille aînée qui a 17 ans. Donc là, je suis en train de faire bouillir de l'eau pour mettre des œufs dedans.
Quelle est votre humeur du matin, Frédéric?
Là, je suis préoccupé parce que je dois prendre un avion.
Mais quel est votre degré d'envie de mourir au moment où le réveil sonne?
Ça dépend. En fait, ça dépend de l'heure du coucher.
Oui.
Oh, c'est vraiment ça. Alors là, vous faisiez allusion à ma vie nocturne, mais il se trouve que je ne suis pas sorti du tout hier soir, donc tout va bien.
Est-ce que vous êtes favorable aux cheveux longs pour les garçons?
Pardon?
Est-ce que vous êtes favorable aux cheveux longs pour les garçons?
François Rollin.
Ah, François Rollin, bonjour François Rollin. Oui, bien sûr, je le prouve, je crois que je le prouve chaque jour.
C'est formidable,
oui.
Ça. Hein,
oui,
c'est
formidable.
Je n'étais pas là-dedans.
Imaginez Édouard Philippe avec les cheveux longs, comme ce serait bien. Déjà, il a une barbe, mais imaginez avec les cheveux longs.
Mais il y avait eu l'arrivée des deux fils de Sarkozy au moment de son élection qui avaient les cheveux très longs, la France était un peu perplexe. Oui, comment se passent vos nuits, Frédéric? Est-ce que vous, dans la nuit, vous écrivez des phrases comme Hitchcock que vous relisez le matin?
Ça peut arriver. En règle générale, je pense qu'il faut noter tout de suite les idées, sinon elles disparaissent à jamais. Et parfois, peut-être c'est préférable. Hein.
Et ce matin, par exemple, vous êtes réveillé au milieu de plein de petits papiers griffonnés?
Oui, j'écris parfois sur mes draps.
Qu'est-ce qu'il y a écrit ce matin?
Pas grand-chose. Il y a surtout des horaires d'avion. C'est par cette idée que je vais rater mon avion.
Donc là on est dans l'heure petit déjeuner. Vous êtes quoi, en caleçon, t-shirt?
Non, là je suis totalement habillé. Hein.
Ah oui. Vous êtes donc passé déjà par le rituel d'hygiène avant de nous parler?
Alors, c'est là où je vais vous décevoir. En fait, je me suis lavé avant le coucher.
Oui.
Et je considère que je suis propre, donc je me suis habillé directement. Est-ce que j'ai mal fait?
À partir de quel laps de temps entre le présent et le passé dites-vous, tiens, je suis propre pour aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez me dire, c'est bon, je me suis lavé mardi dernier et ça compterait encore?
Ça dépend. Mais non, là, franchement, écoutez, voilà, je me suis lavé hier soir avant de me coucher.
Oui.
Je me réveille, je m'habille direct. je vais prendre un avion, donc c'est pas très hygiénique, et je me laverai à l'arrivée.
Non, non, mais moi, je ne vous fais pas la morale, c'est vraiment de la curiosité, je ne cherche pas du tout à... Je ne pense pas, comme certains, qu'il n'y a que les gens sales qui se lavent. Hein. Dites-moi, Frédéric, il y a quand même eu... Vous lavez les extrémités le matin, est-ce que vous avez une vous êtes un dentifrice qui travaille juste sur la laine ou sur la carie, principalement?
Alors, c'est... Je crois que c'est surtout la laine qui est un problème le matin, en fait. La carie dentaire vient très très loin dans la liste des dangers.
Alors c'est souvent la laine de l'autre, hein, parce que la nôtre, on est souvent assez content. L'autre pue, hein, c'est le titre d'un des livres que vous préparez.
Non, c'est un livre de Florian Philippot. non, j'ai en fait pas du tout cette impression. Moi, j'ai vraiment l'impression que il faut que je protège les autres de mon haleine. Je crois que c'est essentiel pour la France.
C'est assez beau. Alors, il y a la laine directe qu'on ne souhaite pas, puis il y a parfois la laine qui rebondit. C'est-à-dire qu'on croit qu'on tourne la tête à quelqu'un et qu'il échappe à notre haleine, sauf qu'il y a un meuble en face et paf, ça finit par atteindre son objectif.
Ah ben oui, mais vous savez, j'y ai pensé, parce que j'ai pensé à vous, et je me suis dit peut-être que quand on parle sans se laver les dents dans un téléphone, ça peut se ressentir à l'arrivée.
Non, je pense que les auditeurs, au contraire, sont assez charmés. Je vous jure, ça sent la rose et le réséda.
On ne sait jamais. Et puis, c'est vrai que ça peut rebondir sur le téléphone et arriver dans mon réceptacle olfactif.
Merci de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Quel est votre message d'espoir avant de vous quitter pour cette journée, Frédéric?
On a envie qu'il fasse beau. On a envie qu'il fasse beau. Attendez,
on a des envies modestes, oui. On suffirait qu'on ait...
On a envie qu'il fasse beau. Je crois qu'il va faire très beau. Alors voilà mon message. Aujourd'hui, ça va être 30 degrés. 30 degrés sur toute la France.
Merci. Oui, Atmen.
Oui,
Atmen Khalif aussi.
Oui, bonjour Frédéric. On a vérifié avec une simulation graphique. Édouard Philippe avec des cheveux longs, ça fait ou Jésus ou Conchita Wurst. Voilà, je voulais juste le dire.
Oui, mais c'est pas mal. Si un jour les cheveux blanchissent et la barbe aussi, ce sera Georges Moustaki.
Merci beaucoup. Georges Moustaki, il y a d'ailleurs une place Georges Moustaki qui va être inaugurée le 25 mai à Paris, en présence, de sa fille Pia.
Ça ne m'étonne pas. Ça correspond un peu à la nouvelle politique du gouvernement.
C'est bien que ce ne soit pas tout le temps des généraux. Merci Frédéric Becbédé et bon petit pot. Hein.
Merci beaucoup.
Au revoir papa. Au revoir jeune père.
Bonne journée.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal? La revue de presse de Marie. Missé.
C'est un train, cette émission, un train dans la journée qui se lève. Regardez, bam, paf, on est à l'heure. Marie Missé est là. François Rollin savait la date exacte de cet hommage à Georges Moustaki, dont vous étiez très proche, François. Et Marie Missé, maintenant.
Et moi, rien.
Hein, mais vous êtes super, Batman. Et vous avez une chemise qui est vraiment très bien pour votre teint. Et ça, les auditeurs nous envoient beaucoup de tweets, là. Tiens, regardez. Ça lui va très bien. Des tweets papier. Marie Missé.
Oui.
Remettez le petit générique, c'est toujours bien.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
J'ai lu le journal, effectivement, et aujourd'hui, dans la presse, on dresse, surprise, le portrait d'Édouard Philippe, nouveau Premier ministre, là pour casser la droite, selon Libé, c'est la une, alors que Le Figaro y voit peut-être en édito le moyen de mettre au pouvoir le parti qui partage la même conviction qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire tout changer. Or, je cite toujours Le Figaro, ce parti existe déjà et il s'appelle... Surprise, les Républicains. Libé dresse un portrait assez flatteur d'Édouard Philippe, ne rappelle pas trop son activité restreinte à l'Assemblée nationale, ni ses votes contre la transparence ou l'égalité homme-femme. Édouard Philippe est un boxeur qui fait des blagues, qui est copain avec Jérôme Guedj, de l'aile plutôt gauche du PS, et aime plus l'exercice du pouvoir que sa conquête, nous dit toujours Libé, en exergue du portrait, cette phrase de celui qu'Édouard Philippe appelle « le patron ». C'est-à-dire Alain Juppé, cité deux fois quand même, il faut couper les deux bouts de l'omelette. Une métaphore politique que je trouve particulièrement peu pertinente, car quand l'omelette est ronde, elle n'a pas de bout. Bon, alors si vous voulez que je vous l'explique un petit peu, il faut couper les deux bouts de l'omelette. Et bien pour Alain Juppé, il faut gouverner avec les gens raisonnables et se débarrasser des extrêmes qui, je cite, n'ont rien compris au monde.
Ah, c'est juste ça. Bon.
Voilà, ça. Il faut couper les deux bouts de l'omelette. Voilà, une métaphore pas super. Aux États-Unis, les libertariens utilisent une autre métaphore culinaire pour parler de leur gouvernement idéal. Loin de l'omelette, c'est l'île flottante. Le Monde nous apprend que la Polynésie est prête à accueillir au large de ses côtes les cités rêvées de la Silicon Valley qui y édicteraient leurs propres règles. des nations flottantes, donc des îles artificielles. Dans un plaidoyer signé Patrick Friedman et Joe Quirk de chez Google, les îles flottantes sont la réponse à tout, à la future crise des réfugiés climatiques, comme au problème de cohabitation entre humains qui ne supportent plus les désaccords, car c'est bien connu, sur une île, tout le monde est d'accord. Il y aura donc un projet pilote d'île flottante au large de Tahiti, pour rassurer les habitants qui n'y voient qu'un paradis artificiel pour geeks millionnaires. Le Sea Standing Institute, à l'origine du projet, le présente depuis hier et jusqu'au 18 mai à Tahiti comme une île incubateur de start-up spécialisée dans les technologies marines. Par rapport à la terre de totale liberté où l'on, par exemple, pourrait tester des médicaments non validés que voulait le soutien de Donald Trump, Peter Thiel, dans la Silicon Valley, l'utopie s'est assagie, nous dit l'article du Monde. Des lieux où l'utopie peut clairement s'exercer au-delà des lois, ce sont les jeux vidéo. Beau portrait, toujours dans le monde, de Serge Ascot, le jouisseur créatif, dit le Monde, directeur artistique de Ubisoft, numéro 3 mondial de la matière, un homme qui ne sait pas coder, mais est à l'origine d'inventions de mondes entiers, et qui d'ailleurs, depuis quelque temps, essaie de réduire les schémas narratifs dans ses jeux vidéo, comprendre de laisser les joueurs libres dans ses univers, ses petites îles flottantes à lui, quitte à blesser ses petits scénaristes d'Ubisoft. Mais attention, les univers restent réalistes. Pour un jeu, il a par exemple envoyé créatifs et développeurs se frotter aux trafiquants de drogue locaux en Bolivie. Et puis, offrir une liberté totale dans le virtuel, ça ne veut pas dire ne pas vouloir impacter le réel. Il essaye en ce moment de créer un jeu qui aiderait des gens comme sa fille, dyslexique, à surmonter leurs difficultés grâce aux neurosciences et au CNRS. Un jeu qu'il ne présenterait pas comme éducatif, mais qui pourrait aider. Aider le rituel, aider le réel avec la fiction, c'était aussi le plan de la DGSE, décrit par le Figaro hier, en coopérant très fort avec la série Le Bureau des Légendes. Ils ont eu les coups des franches au Bureau des Légendes, ils ont rencontré moult agents, ont visité les locaux. Résultat, l'image de la DGSE, pas au top depuis l'affaire du Rainbow Warrior, se porte absolument comme un charme et les CV affluent sur le bureau, alors même qu'ils ont tant besoin de recruter en ce moment à la DGSE. On appelle ça le soft power et c'est assez puissant.
Merci beaucoup Marie Missé. Ahmed Kelly, vous étiez dans la première saison du Bureau des Légendes et votre personnage meurt ?
Non, il disparaît. C'est-à-dire, c'était un traître au gouvernement algérien et puis il est fortement questionné. Il devient un traître il rallie la France, appelle la DGSE, oui. Puis après on l'élimine.
Mais trouver des personnages qui vivent comme ça, ils sont dans la deuxième série.
Mais c'est un peu difficile.
Bah, il suffit de vivre et après
je suis sur Ravaillac en ce moment.
Saison. Oui, bah, je vous dirai quel rôle ne pas jouer dedans. Merci Marie.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Attendez, y a juste avant le journal, j'ai un espace de 20 secondes. Sprang était en train de me dire que vous disiez le président Macron a parlé de vin qu'il aimait.
Oui, j'ai reçu ça dans ma boîte mail. On m'explique qu'il aime... Bon alors, Bourgogne blanc, Bordeaux rouge, mais surtout l'excellent Roc de Combes en Côte de Bourg.
Oui.
Et les rouges de Bandol. Voilà,
les rouges de Bandol, voilà. C'est très bien.
C'est nul.
Le Pibarnon, pas du tout. Il y a des magnifiques rouges et des très très jolis. Je cite le château Pibarnon. S'il peut m'en envoyer une caisse, c'est bien. Oui. François, vous trouvez que ce goût en vin dit quoi du nouveau président ?
Moi, je ne suis pas très sûr de l'information.
Ah oui.
Ouais. Laisse les bandons là.
Ah mais attendez, c'est le site Spoutnik, c'est un site russe qui fait pas ça.
T'es pirate.
J'ai même pas relevé le jeu de mots d'Ahmed Kelly. C'est bon, on peut aller dans le journal avec confiance maintenant. Merci Sprang.
Des pirates informatiques auraient réussi à dérober le nouveau volet de la saga des Pirates des Caraïbes qui doit sortir sur les écrans à la fin du mois. Ils réclameraient, ces pirates, une rançon importante à Disney. On ne connaît pas le montant. Ils menacent de montrer 5 minutes du film et puis 20 s'ils ne sont pas entendus. Gérard Collomb, Corinne Lepage, François Bayrou, Marielle de Sarnez, Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, Benoît Apparu, Jean-Pierre
amis.
Raffarin,
que
Jean-Louis Borloo, Richard Ferrand.
Non,
bref,
plus.
Que des amis.
Non, je... Ah, oui. Moi, je suis amis. S'ils sont élus, je suis amis. Vous savez, des gens riches et puissants qui peuvent me rendre des services. Ouais.
Autant de personnalités, en tout cas, susceptibles d'entrer au gouvernement, réponse ce soir aux alentours de 20h. Bernard Accoyer, secrétaire général du parti LR, a beau parler d'une décision personnelle. La nomination d'Edouard Philippe au poste de Premier ministre pourrait bien quand même poser quelques soucis à la droite. Le député maire LR du Havre, un des piliers de l'équipe de campagne d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite, prend donc possession de Matignon. Pour son premier déplacement comme Premier ministre, il s'est rendu hier soir à la préfecture de police de Paris. Le mouvement La République En Marche a publié aussi hier soir une nouvelle liste de noms pour les législatives, parmi lesquels environ 80 centristes du MoDem, ce qui devrait détendre un petit peu François Bayrou.
Vous êtes au MoDem, vous
Pourquoi
Thierry Paret, non Pourquoi non, non,
pas du tout. Nom.
Ah non, c'est des pas trucs russes, tout. C'est des Russes qui prétendent ça.
Ouais. L'alliance entre Debout la France et le FN avant le second tour de la présidentielle a volé en éclats, à moins d'un mois donc du premier tour des législatives. Le Front National a décidé d'investir un candidat dans l'Essonne face à Nicolas Dupont-Aignan.
Vous pouvez me l'interpréter, François Rollin, le fait de voler en éclats?
Pauvre. C'est ukrainien.
Deuxième proposition.
Ça, c'est coréen.
Merci.
François Fillon, pour sa part, est à nouveau convoqué par la justice le 30 mai. Les magistrats enquêtent toujours sur les soupçons d'emploi présumés fictifs dont auraient bénéficié l'épouse et les deux enfants et deux des enfants de l'ancien Premier ministre. Selon le Washington Post, Donald Trump aurait révélé des infos hautement classifiées au chef de la diplomatie russe et à l'ambassadeur de Russie aux États-Unis lors de leur récente rencontre la semaine dernière à la Maison-Blanche. Les informations partagées par le président américain concerneraient le groupe État islamique. La Maison-Blanche, évidemment, dément ces infos. 5 journalistes ont été tués au Mexique depuis le début de l'année. Le dernier en date, c'est Javier Valdez, pigiste de l'AFP, spécialiste du narcotrafic. Il a été assassiné dans la ville de Culiacán hier, dans le nord-ouest du pays. Pour finir, Cavani qui affole les compteurs. 49 buts en 48 matchs. L'attaquant parisien, on parle football, est le meilleur buteur du championnat de France. Edinson Cavani a surtout été sacré hier soir meilleur joueur de Ligue 1. Il succède à Zlatan Ibrahimovic et ses deux titres devraient lui rapporter une prime de 1 million d'euros, donc 2 millions d'euros en tout.
Oui, mais il y a les Oscars aussi pour Monaco.
Monaco a quelques prix aussi, bien sûr.
Il ne parle pas des Oscars de Monaco, de l'entraîneur, du goal.
C'est vrai, c'est moins important que le meilleur joueur de Ligue 1. Mais t'as raison, c'est vrai.
C'est grave.
Il ne parle que de l'argent.
Il y a le meilleur espoir pour Mbappé et meilleur entraîneur, Monaco. Mais qui se soucie d'un entraîneur qui, de toute façon, va sauter demain?
Pas du tout cet esprit-là. Pas du tout envie de ça en ce moment. Ça, j'ai pas. Vous voyez, Thierry Paret, si aujourd'hui la France en est là où elle en est, c'est peut-être parce que des gens comme vous disent des choses comme ça.
J'ai dérapé. Je suis désolé, j'ai dérapé.
Jack Sou. Merci beaucoup, Maestro. Jack Souvent ou François Rollin, l'animal?
L'animal du mardi.
Comme dirait Maryse d'Europe 1. Alors, quel est cet animal, François, ce mardi?
Eh bien, l'animal du mardi, c'est le fouf.
Pardon?
Le fouf. Ouais. Ça s'écrit comme ça se prononce, 3F, O-U, 3F. Cet animal fabuleux tient son nom du bruit qu'il fait quand il passe. Fouf. Ah. Car le fouf se déplace constamment à très grande vitesse, bien plus vite que Bip Bip le coyote, qui lui-même va déjà très vite, comme chacun le sait. Alors, on ne sait pas à quoi ressemble un fouf, car cet animal passe si rapidement qu'il échappe même aux objectifs photographiques les plus perfectionnés. L'image du fouf est au mieux floue et le plus souvent inexistante, car le fouf est déjà passé. On ne sait pas non plus de quoi se nourrit le fouf. On suppose cependant qu'il se nourrit de très petits insectes peu caloriques, mais en très grande quantité, compte tenu de sa vitesse de déplacement, un peu comme un motard mange les moucherons. Je vous renvoie sur ce point à notre rubrique L'animal du mardi du 13 janvier.
Ah oui.
On ignore également si le fouf peut vivre en captivité, dans la mesure où on n'a jamais pu en attraper un. Et je voudrais terminer avec un très joli poème tiré de votre recueil, Édouard, votre recueil Ber en vers, où le fouf est admirablement cité dans cette phrase que je trouve formidable. Fouf, c'est pas tous les jours qu'on mange une andouillette de cette qualité.
Merci beaucoup, en effet, c'est Ali qui s'est mal vendu, mais l'avenir me donnera raison. Ah, il y en a un qui vient de passer.
Ah, oui.
Merci beaucoup, François. Jack Souvent dans la rue, tiens, mets ton casque, écoute ça. Qu'est-ce qui se passe? On est dans des travaux, là? Qu'est-ce que c'était?
Je suis au garage Saint-Antoine.
Bah, j'imagine bien, c'est le son typique du garage Saint-Antoine, ça.
Bah oui. Et alors, il y a Michel, Didier, et puis encore qui? Et puis Anthony, qui sont là, qui bossent. Bon, Michel, il fait un petit peu la gueule parce que le patron... Bah, il l'a pris en grippe ce matin à cause d'une Renault 5.
Oui, ça arrive souvent.
C'est ça, exactement.
Michel, voilà, bonjour.
Non, c'est Anthony, parce que Michel, il veut pas parler.
C'est un piège. Donc, Michel est pas content, Didier, on ne sait pas encore, et Anthony veut bien nous parler. On en est là aujourd'hui à 8h36?
C'est ça, exactement.
Anthony, là, on est parti sur un son assez technique, là. Qu'est-ce que c'était? On était dans le moteur, on était sur la carrosserie. Qu'est-ce qu'on a entendu?
C'était le pétard, en fait, la clé à choc.
Précisons un tout petit peu pour certains de nos auditeurs qui seraient pas bien à l'aise avec les matériels techniques dans le monde de l'automobile.
En fait, c'est un outil qui nous sert pour desserrer tout ce qui est écrou. Voilà. Tous les écrous, on les dessert avec une clé à choc.
Alors, là,
c'est comme une voilà, c'est une clé à choc qui fonctionne à l'air comprimé.
Donc ça évite d'utiliser l'huile de coude hein, et de s'emmerder pendant des heures.
Exactement, c'est ça.
Alors Anthony, je suis bien avec vous là. On desserre les écrous et là on accède à quoi? Là on était dans le moteur, on était sur quoi là ce matin?
Mon collègue, il était en train de démonter une roue en fait. Voilà.
Donc là il y a des roues qui, on était en changement de roue. Est-ce que c'est le collègue Didier parce que Michel ne veut pas parler ou c'est Michel qui ne voulant pas parler accepte de travailler quand même?
Non, Michel, il bosse et il n'est pas trop ouvert au monde extérieur, on va dire.
D'accord. Et vous, Anthony, vous êtes le communicant de l'équipe un peu? Vous êtes le mec qui aimait bien parler avec le monde extérieur?
Ah ouais, ouais, moi je suis ami avec tout le monde.
Alors c'est peut-être en fait, trop,
Didier vient de faire tomber sa pièce par terre, là. Il vient de nous regarder, genre, je suis pas content. Et Anthony, lui, il est spécialiste de l'électricité, hein, avec des petits composants et tout ça, là. C'est toutes les vitres électriques, tout ça?
C'est ça, exactement, oui. Dès qu'il y a des pannes, des recherches... des problèmes, tout ce qui est problème, c'est moi qui m'en charge.
Alors, dans une voiture normale aujourd'hui, quelle est la part de mécanique et d'électronique dans les réparations?
Bon, on va dire c'est 50-50. Hein. Ouais, 50 d'électronique et 50 de mécanique, quoi, voilà. Hein.
Parce qu'il y a des gens qui regrettent le tout mécanique, on pouvait tout faire nous-mêmes, maintenant c'est absolument impossible.
Ouais, c'est ça, exactement.
Alors, comment c'est partagé entre Didier, Michel et Anthony à part en communication? Donc, Anthony parle, Didier fait tomber la clé à molette et Michel refuse de parler. Mais techniquement, est-ce que vous faites tous un peu les mêmes choses?
On a chacun notre spécialité, en fait.
Alors, vous, c'est l'électronique, Anthony?
Ouais.
Donc, c'est complètement d'autres études que dans les moteurs
Non, c'est les mêmes études, sauf qu'après, ben, on a sa spécialité, quoi, sa passion.
Est-ce que maintenant qu'il y a autant d'électronique, est-ce que c'est un métier où il n'y a plus du tout le légendaire mec avec du cambouis dans les mains, le bleu de travail qui sort de dessous la voiture et les femmes s'évanouissent? Ou est-ce que vous avez encore un peu de cambouis sur les mains, Anthony, ou moins en électronique?
Ça dépend pour qui. Il y en a qui ont du cambouis sur eux.
Une des questions en fait, les plus longues.
Ce qui est drôle, c'est que la succursale, elle est assez énorme, il y a des bagnoles partout. Et la radio est sur Nova, est branchée sur Nova, donc tous les autres mécaniques
font
ce que vous dites. Didier n'était pas d'accord, il y en a qui ont du cambouis quand même.
Qu'est-ce qu'il dit, Didier?
Ah, il est occupé, il travaille.
Il travaille, tandis que vous parlez, ça va créer des problèmes ou pas?
Venez, on va voir Didier.
On va aller voir le camarade.
Il y a Imen, lui, c'est le chef.
J'ai au téléphone.
Avec qui?
Bah avec le magasin de BMW France.
Pourquoi vous vous êtes engueulé avec Michel ce matin?
Non, c'est il est parti avec le téléphone. Didier, prenez le casque.
Oui, mais enfin, Imen, il s'est engueulé avec Michel ce matin. Moi, je veux bien parler à Didier si Anthony ne veut plus parler. Hein? Bah si.
Didier, bonjour.
Je sais que Michel s'est engueulé avec le chef et d'habitude, c'est plutôt Anthony qui préfère parler. Mais là, il y a Imen qui était au téléphone, donc si on peut vous dire deux mots.
Oui, je vous écoute.
Donc là, vous êtes plutôt sur quoi, Didier, ce matin?
Bah, je suis sur le train à monde d'une BMW 90.
Vous aimez bien ce modèle-là?
Oui, bah, ça va. Bah, c'est pratiquement le plus courant de chez BMW là, en ce moment.
Quelle est votre voiture de rêve, vous, Didier, pour vous?
Bah, une Porsche.
Eh ben, on va vous faire parvenir ça. Ça doit pas être très compliqué. Et à réparer, est-ce que parfois vous salivez quand vous voyez arriver certains modèles en disant ça, c'est un moteur génial à travailler?
Bah non, pas vraiment, parce qu'à mon âge, j'ai 58 ans, il n'y a plus grand-chose qui me fait vraiment rêver. Hein.
C'est vrai?
Oui, parce que j'ai l'habitude, vous savez, ça fait des années que je fais de la mécanique. J'ai vu un petit peu tous les modèles qui existent, voilà.
Alors si c'est plus dans les voitures, qu'est-ce qui vous fait rêver encore, Didier?
Bah, les femmes, un peu plus que les voitures.
Vous voulez parler de la vôtre ou justement de toutes celles qui ne sont pas la vôtre?
Bah, toutes celles qui ne sont pas la mienne.
Très bien, je vous la passe tout de suite, on l'a retrouvée, elle est là.
Ok, merci.
Bon, merci Didier. Bonne ambiance ce matin au garage Saint-Antoine. Merci à toute l'équipe.
Je ne sais pas. Vous voulez passer un message de quel type? De type révélation? De type quoi?
Non, je voudrais embrasser ma femme, voilà.
L'embrasser où?
Sur la bouche, sur les quatre fesses. Bisous, chérie.
Qui vient de parler?
C'était Anthony.
C'est Anthony.
Anthony embrasse sa femme, Anthony.
Sur les quatre joues.
Parle au monde. Les quatre joues que Dieu nous a données. Didier ne veut plus rêver. Michel a été puni par son supérieur hiérarchique. Les moteurs arrivent, le cambouis, les mains au cœur des choses. Dans la technique, la tête dans les étoiles. Le garage Saint-Antoine s'éveille ce matin. Ça dévisse, ça troue. Et j'ai pas assez de mots techniques sur les voitures. Et François, parce que ça, on aurait pu aller dans les
la clé à choc.
Ouais. Ah oui, qu'est-ce que j'appuie ça? Qu'est-ce que vous auriez eu comme verbe, tout ça? J'aurais pu faire des faux mots comme en marine. Ça défourette, ça moucraille, ça bijoute.
Oui, oui, mais...
Ça futrine, ça malinche.
Décalaminé.
Je vous remercie.
On va essayer avec ça?
Oui. Ce matin, au garage Saint-Antoine, ça décalamine, ça foutrache. Ça bûchine, ça badingue. Ça ranquine, ça fustèche. Ça brigue dans les foulacs. Ça morade dans la counac. Oui, enfin, ça, c'est en marine. Merci, à tout de suite. On va parler de choses.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
7h-9h, plus près de toi.
On va.
Alors Maria, moi je suis tombé sur tes vidéos sur Facebook, ça s'appelle Maria Comédienne.
Oui.
Et comme beaucoup maintenant de jeunes acteurs ou actrices qui débutent, plutôt que d'aller, que de courir les castings, tu t'es dit je vais faire mes trucs à moi, c'est à nous de nous déplacer. C'est plus à toi de courir les castings.
C'est
et ça.
Ça
c'est quand même pas mal parce que souvent on dit mais comment ça commence ce métier, par où il faut aller, à quelle porte il faut sonner, qui il faut rencontrer. Et bien là l'avantage de ces vidéos qu'on poste, c'est qu'on voit tout de suite ton univers à toi. Bonjour.
Bonjour.
Alors toi, tu es comment ça t'est venu un peu l'idée de... tu as fait des cours de théâtre, des choses comme ça, des écoles d'acteurs?
Oui, alors en fait, excusez-moi, ça fait 8 ans que je fais du théâtre avec la compagnie À Force de Rêver. Donc ça fait 8 ans que je suis comédienne.
Et pourtant, tu as 21 ans, donc tu as commencé en même temps que tu apprenais à manger presque.
Oui, non, je devais avoir 15-16 ans et je me suis dit, enfin, il y a une dame qui est venue et qui a proposé à plusieurs jeunes s'ils voulaient faire, enfin, ils voulaient participer à la compagnie À Force de Rêver. Donc moi, je me suis portée volontaire. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Et, après...
Donc là, tu étais où? Tu étais au lycée?
Oui, effectivement. Dans
c'était
le 14e,
où ça?
Dans le 14e.
À Paris,
oui. Oui. Et bah, voilà, après, je me suis portée volontaire et j'ai essayé, j'ai tenté et j'ai kiffé.
Bah alors, et alors l'idée de faire des vidéos, ça vient d'où ça?
Alors c'est tombé sur un coup de tête parce que mes proches, mes amis, ma maman, ils me disaient que je faisais rire et que j'imitais bien les gens. Moi personnellement, peut-être que je fais rire, mais je le fais pas exprès des fois. C'est peut-être un avantage. Voilà.
Bon, là ce sont des vidéos. Alors ça vient un peu. Tu me disais, c'est inspiré de Vine.
Oui, en fait les Vines, c'est c'est nous, enfin moi, avec plusieurs figures différentes, plusieurs facettes, enfin, je joue plusieurs rôles en fait.
C'est ça, moi j'ai trouvé ça très drôle. Donc il y a un texte, c'est quoi le texte? C'est des mini-séries, des telenovelas, c'est quoi?
En fait c'est des films américains, enfin plus américains parce que moi je suis plus les States. Et...
C'est des films américains qui sont souvent traduits avec des traductions, avec les voix de traducteurs comme ça.
Oui voilà.
Tu joues tous les rôles?
Oui voilà, c'est ça.
C'est très étonnant d'ailleurs, c'est tout un truc de montage, tu te réponds, tu fais toutes les voix, c'est oui. Toi à chaque fois. Et c'est ta sœur qui est à côté qui filme?
Non c'est moi, enfin je me filme toute seule en fait, je pose ma tablette sur une table. Et je me filme, j'essaie de pas regarder la caméra, c'était un peu difficile au début, mais bon, après, ça allait.
Et le montage, alors, qui fait ça?
Le montage, je l'ai fait moi-même.
Ah oui, mais comment tu as un logiciel de montage aussi?
Oui, en fait, c'est une application qui s'appelle Momentica, et ça permet de faire des montages, etc.
Alors moi, je suis épaté, parce que le nombre de gens qui continuent de dire, mais comment commencer, qui je dois rencontrer? En fait, tu es chez toi, tu as pris ton idée toi-même de regarder ces séries. Tu fais tes costumes, tu fais les voix, tu fais ton montage et tu les postes toi-même et c'est parti.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, les films, il faut savoir que je ne les apprends pas par cœur. Je les regarde plusieurs fois parce que j'aime bien. Donc, du coup, ça rentre tout seul dans ma tête.
Alors, ça s'appelle Maria Comédienne. C'est sur une page Facebook. Allez voir, il y a vraiment des trucs super. Et qui t'accompagne aujourd'hui?
Alors, c'est ma sœur. Des fois, on la voit dans les vidéos, mais on ne voit pas son visage. C'est pour
c'est sympa. J'adore ma sœur, mais j'ai décidé de ne pas montrer son visage.
Non, c'est pour un peu équilibrer. C'est pour. Que ça paraisse vrai, en fait. Qu'il y ait vraiment une personne à côté de moi.
Ah, elle fait les... Oui, elle fait les amorces.
Voilà, dit, c'est ça, les amorces.
On voit son épaule, comme ça, on croit qu'il y a deux personnes, alors que c'est toi.
C'est ça,
toi aussi, tu es comédienne?
Oui, je suis comédienne, effectivement. Mais sauf que moi, j'ai commencé avant elle, en 2008. Ça fait maintenant 8 ans, je crois. Non.
Et alors, toi, il faut que tu fasses des trucs aussi comme ça?
Oui, mais sauf que j'ai pas le temps.
Bon, parce que vous avez un métier alimentaire à côté, toutes
ouais,
les deux.
Ça
hein.
Doit être ça, ouais.
Toi, Maria, tu travailles où alors?
Alors moi, je travaille avec l'association Aurore. C'est une association qui permet d'héberger les sans-abri. Et franchement, moi, je prends vraiment un plaisir à faire ça parce que j'aime bien aider, tendre la main aux gens.
Et puis tu te nourris des gens que tu rencontres, tout à coup, ça te...
Voilà, c'est vrai, c'est vivant, c'est... Franchement, c'est...
Et bon, enfin, en tout cas, vous avez vraiment, il y a plein d'idées dans ce truc-là. Vraiment, c'est formidable. Allez voir Maria Comédienne sur Facebook.
Voilà,
merci, mesdemoiselles. Un dernier mot.
Moi, je dirais juste aux gens qui ont un rêve de, quand on veut, on peut, en fait.
Ouais, c'est ça. Aller jusqu'au bout et
ne pas écouter les mauvaises langues.
Donc, si vous voulez, par exemple, jouer au jeu de François Rollin, c'est tout de suite après. Vous pouvez aussi. Merci, bravo.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi.
Il est disponible en... C'est bien de passer... que le morceau soit disponible. C'est important, la notion de disponibilité. Et alors, Madame Bonin s'est acheté une nouvelle cuisine.
Madame Bonin, oui.
J'étais content pour elle. Moi, je ne la connaissais pas avant cette publication.
Dans le nom, on sent la bonne cuisinière.
Oui, on
sent la bonne cuisinière.
C'est quelqu'un qui travaille très bien. Mmh. Et puis, alors, on a été à la fois dragué par un type de chez Peugeot qui était en surérotisation de sa voiture. J'imaginais se frottant contre. Quand elle a, il y avait une Renault Zoé qui avait l'air un peu modeste.
Il fait du bruit, truc, puis il y a des oiseaux derrière.
Qu'est-ce qui vous a plu dans la publicité aujourd'hui, François?
Vous
n'avez rien acheté. Hein.
Ah non, j'ai rien pris.
Et pourtant, vous aviez apporté un carnet de chèques, mais là...
Ben oui, mais je me suis déjà un petit peu... J'ai fait des achats à 7h ce matin, là, juste en commençant l'émission.
Oui.
Donc là, j'avoue que dans ce dernier écran de publicité, je n'ai pas trouvé...
Bon, on n'a pas eu la DS Inès, quoi, moi.
C'était bien quand on avait la DS Inès de la Fresse, là, on était contents.
On a envie d'y aller, quoi.
Oui.
On avait de remonter les champs avec la garde républicaine et la DS Inès.
Il y a un truc, un nouveau paquet SFR où on se fait bien engueuler par le mec, là. Je crois qu'on a intérêt à l'acheter dès 7h. Parce que sinon, à 8h30, il est encore là à nous faire chier. Alors, le jeu de François Rollin.
Alors, j'ai choisi ce matin un jeu qui se joue de 6 à 8 joueurs. Hein,
oui.
6 à 8.
Alors, on ne les a pas ce matin, mais si vous les avez chez vous.
Ouais. Voilà. Chaque joueur à son tour doit choisir une circonscription parmi les 577 circonscriptions en jeu en juin prochain. Et il doit ensuite énoncer en 15 à 20 minutes son programme pour la défense et les intérêts de cette circonscription. Au terme de son exposé, l'ensemble des autres joueurs indique en levant la main s'il vote pour ce joueur, en pointant son pouce vers le sol s'il vote contre et en ne bougeant pas s'il s'abstient. En cas d'égalité, le joueur dispose de 30 minutes supplémentaires pour défendre son projet. Alors si ça ne vous dérange pas, je commence. J'ai jeté mon dévolu sur la 4e circonscription de la Dordogne, pour laquelle je propose un effort de modernisation du réseau d'assainissement pour les communes de taille intermédiaire. La mise en place d'un comité de coordination du développement des activités touristiques sur l'ensemble du territoire. Une baisse proportionnelle de la taxe sur les entreprises de gavage des canards et des oies à concurrence de...
On va pas faire tout. On va pas faire... On a compris un
petit peu. On n'a pas le temps de jouer ?
Non, c'est pas ça. C'est qu'on a compris le principe après, si vous...
Vous voulez jouer alors ? Ben jouez.
Hein ?
À votre tour, alors allez-y.
Non, mais c'est parce que j'ai senti que vous étiez...
Quelle circonscription vous tente ? Et pour y faire quoi ?
C'est pas faire le bien.
Alors, dans la Nièvre, dans l'Hérault, où est-ce que...
Dans le Tarn, ça serait bien.
Dans le Tarn, voilà. Alors, on va laisser jouer Atmen dans le Tarn.
Allons-y,
alors,
vous présentez.
La première circonscription du Tarn, vous y faites quoi?
Qu'est-ce que j'y fais? Cassoulet pour tout le monde et rugby à midi, quoi, voilà. Mais à l'ancienne.
Je vote pour moi.
Mais oui, il faut voter pour. Déjà une voix sur un.
Voilà, c'est ça. Et puis, descente à canoë-kayak dans les gorges du Tarn, on passe par Ambialet.
Mais financer comment? Comment vous financez ces descentes à canoë-kayak?
Ça va encore sortir de la poche à qui?
Ça sort de la poche à Ducon.
Mais voilà.
Et Ducon, il en a marre, bien entendu. Merci beaucoup. Il est temps de quitter tout ça, de laisser derrière nous ces oripeaux de gloire et de joie. Le micro ne nous appartient pas, la parole nous a été prêtée, il faudra la rendre. Voici maintenant le journal, les 30 Glorieuses étaient cet enchaînement interminable de nouvelles, de gaieté, de mouvements, de solitude et de retrouvailles, de drames et de réconciliation qu'on appelle une journée normale dans ce beau pays de France. Salut à tous, merci.
Au revoir.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.